Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque premier et troisième lundi de chaque mois à partir de 6h du matin, je donne la parole à un père pour lui faire causer de son expérience de la paternité. Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, j'aime ouvrir des voies, voies V-O-I-E-S, et grâce à mes interviews et à mes contenus, vous ouvrir des chemins sur l'univers de personnes que vous ne connaissez peut-être pas ou pas sous cet angle. J'aime aussi vous apporter des idées ou des concepts que vous n'aviez éventuellement pas encore imaginés. J'aime ouvrir le champ des possibles aux gens qui me suivent. Je fais donc des podcasts d'interview, mais je suis aussi en direct sur Twitch tous les lundis, les mercredis et les vendredis, et je vous propose également une newsletter hebdomadaire. Vous pouvez aussi me retrouver sur Insta, sur @fabflorent. Vous retrouverez tous les liens et toutes les infos dans les notes de cet épisode. Allez cliquer pour découvrir l'intégralité de mon univers et surtout, abonnez-vous. Je suis heureux, grâce à Histoire de Daron, de pouvoir offrir une tribune à l'autre moitié de la population qui est souvent mise de côté et qui, faut le dire, n'a jamais trop fait l'effort de s'inclure aussi dès qu'on parle de parentalité, sujet pourtant ô combien universel. Alors qu'est-ce qui se passe dans la tête des pères? Comment redéfinir la paternité à l'aube de la deuxième moitié du XXIe siècle, alors que la société a tant changé depuis une dizaine d'années? C'est ce que j'essaie de vous offrir à travers mes interviews dans Histoire de Daron. Cette semaine, je vous propose un épisode un peu spécial, puisque Mayua a eu l'excellente idée d'avoir tous les quatre une discussion avec nos deux filles aînées, Tam et Lina, qui ont 15 ans. On y parle de plein de sujets, de l'adolescence d'une manière générale et de ce que c'est qu'être une adolescente en 2021, de corps qui change, de peur, de colère, de dépression, de réseaux sociaux, de relations aux adultes, aux parents et aux profs. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles nous ont toutes les deux scotchées, Maï et moi. J'espère que ça vous permettra, chères auditrices et chers auditeurs, de mettre un petit pied dans l'univers des ados de 2021. En tout cas, nous, ça nous a appris plein de choses en tant que parents. Bonne écoute. De mon côté, je vous donne rendez-vous sur mon Discord et sur le forum pour débattre et échanger autour de cette discussion géniale. Je vous mets les liens dans les notes de cet épisode. Et moi, de mon côté, je vous donne rendez-vous sur ma chaîne Twitch le jeudi 1er juillet à 21h afin de fêter le nouveau congé paternité. Voilà, donc rendez-vous le jeudi 1er juillet à 21h sur ma chaîne Twitch. Je serai en compagnie de plein d'autres darons. On va fêter le nouveau congé paternité qui, je le rappelle, dès le 1er juillet, sera allongé de 11 jours à 28 jours. Donc c'est une grande nouvelle pour le congé paternité. Et on fêtera ça en direct sur ma chaîne Twitch le jeudi 1er juillet à 21h, je le rappelle. Je vous souhaite une bonne écoute en compagnie de nos filles et de Maï.
Ça fait peur.
Bah comment ça?
Je sais pas, ça fait peur d'être enregistré. C'est quand
même. Alors il faut que tu mettes ton. Il faut que
comme,
tu mettes...
ça voilà. Comme ça. Comme ouais. Ça. Tu le colles au, ouais. Au menton.
Okay. Exactement. Pourquoi ça fait peur?
Bah je sais pas. C'est déjà je déteste entendre ma voix.
Ouais.
Et puis.
Là tu l'entends pas.
Non. Donc là ça va. Mais non mais c'est grave. T'es nu quoi. Enfin après c'est comme dans n'importe quel truc, une vidéo ou un enregistrement, c'est pas comme si. Enfin on parle de ce qu'on pense vraiment et je sais pas. Moi ça me fait un peu peur. Enfin de se dire que. N'importe qui peut écouter ce que je dis, quoi.
Je t'avais entendu chez Angelo, t'avais bien joué le jeu. Hein.
Ouais, mais j'ai jamais écouté ce podcast parce que bah, justement, je voulais pas savoir ce que j'avais dit. J'ai aucun souvenir de ce que j'ai dit dedans.
C'était super
ah.
Bien.
Ah, c'était trop cool.
Ah, merci.
Donc, ouais, Tam, t'étais chez Angelo. Je vous ouais. Mettrai le lien dans, pour les gens qui sont en train d'écouter, là, dans son podcast Balance ta peur, où t'étais ouais. Venu parler de bah, tes peurs de ouais. Jeune meuf, quoi, tu vois.
Ouais, on avait parlé de la peur du jugement, des réseaux sociaux aussi.
Ouais. Tout un délire.
Ouais.
Bon, donc, on est dans un épisode spécial avec donc, Tam, que vous venez d'entendre à l'instant.
Bonjour.
Bonjour. Qui est donc la fille de Maï.
Bonjour.
Bonjour. Maï, que vous connaissez sans doute sur les réseaux sociaux et ailleurs parce que tu fais des films.
Ouais. Ouais.
Ouais,
ouais j'ai fait un documentaire qui s'appelle Les Rivières, notamment.
Que vous avez... Sans doute entendu, dont vous avez sans doute entendu parler sur les réseaux, qui a été vu plein de fois, là.
Ouais, bah.
C'est sur Brutix et tout maintenant.
Ouais, là, c'est sur Brutix.
Je dab pour toi. Franchement.
Folie! Ouais. Et j'ai regardé, je sais pas, il y a une statistique qui m'est remontée il y a deux jours et j'avais jamais vu cette page, tu vois, sur mon Vimeo. Et le film a été vu dans 82 pays différents.
Waouh. Wow.
Et ça, c'est quand même.
C'est classe, hein.
C'est émouvant, quoi.
Merci Internet, quoi.
Ouais, merci Internet.
Et ça parle de, donc le film, pour les gens qui connaissent pas, qui écoutent Histoire de Daron mais qui connaissent pas, tu parles de ta famille.
Ouais, c'est ça. C'est une histoire, alors pas vraiment de Daron mais plutôt de Daronne. Oui. Ouais. Ça parle de ma lignée de femmes, plus spécifiquement. Donc, j'ai filmé ma grand-mère, ma mère, ma fille et moi pendant un peu plus de 3 ans. Et
Que 3 ans.
Bah ouais, en fait, ce qui a été très long, c'est ensuite le montage qui a duré aussi 3 ans.
Qui était un long accouchement.
Très très long accouchement. un tout petit peu douloureux. mais que je regrette pas parce que ça nous a beaucoup transformé et ça nous a permis de déterrer plein de fantômes du passé pour les remettre à leur place et vivre notre vie aujourd'hui, quoi. Donc dans la famille, ça fait une sorte de, tu sais, pavé dans la mare, quoi.
Bah
donc
ouais.
Tout le monde était trempé, j'ai mis tout le monde à poil pour le coup. Mais
métaphore.
mais voilà, c'était ça a été utile, très très utile.
C'est cool, hein.
Ouais. Et donc ça, apparemment, ce qui est fou, c'est que cette histoire qui était très 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 intime, et ben en fait elle a parlé à vachement de gens.
Très universel, finalement.
Bah ouais, mais tu vois, c'était pas un but en soi au départ que ce soit aussi universel. Et ouais. Et donc quand j'ai vu ce truc, le film avait été vu dans 82 pays différents, ça m'a vachement touché.
Je crois qu'on peut dire que si vous êtes une mère ou une fille, à un moment donné, vous pouvez regarder ce film, donc qui est disponible en VOD. Je vous mettrai le lien dans les notes comme ça. Entre mère et fille.
Ouais,
normalement, ça fait le taf.
Ça fait un bon taf. Ça fait un bon taf et je reçois quasiment tous les jours des mails de gens qui ont regardé le film avec leur mère ou avec leur fille. J'ai aussi des papas qui me disent moi j'ai eu la conversation de ma vie avec ma fille grâce à ce film parce que je comprenais pas MeToo par exemple ou je comprenais pas des choses qu'elle pouvait traverser et qu'il y avait pas de mots pour le dire. Et donc le film raconte toutes ces histoires de femmes et moi ça m'aide à comprendre ma fille, ma sœur, et donc c'est génial, ça c'est vachement beau. Donc les gens le regardent souvent avec leurs amis ou avec leur famille. Ouais.
J'ai quelques amis qui ont fait le truc,
ouais.
Ça marche. Hein. Apparemment la chialade est totale.
Ça pleure pas mal, ouais. Ça pleure des paquets d'eau là.
Ça chiale non-stop, c'est sûr et certain. C'est chialade garantie, sinon bah Maï vous rembourse. Non, ça c'est que moi qui l'ai dit. Hein. Ok, d'accord. C'est pas... y a également Lina à ce micro que vous avez déjà entendu si vous écoutez Histoire de Daron.
Depuis longtemps, parce que c'est très très vieux.
À une reprise, naguère. Bah non, c'est pas si vieux parce que ce podcast il a que 4 ans.
Ah bah c'était au début, c'était dans les premiers. Hein,
c'était au bout de 7-8 mois, je crois. Donc,
Ah ouais.
Et toi, t'as l'impression que c'était, il y a une autre.
Ah moi, j'ai vraiment l'impression que c'était une vie antérieure que je n'ai jamais vécue ou que j'ai vécue il y a vraiment très très longtemps.
Tu l'as vécu, je crois.
Oui, je l'ai vécu, je m'en rappelle. J'avais préparé les questions et tout avec Kimiko.
Ouais, je me souviens.
On se sentait plus.
Et donc, vous avez quel âge?
2010, 11 ans.
Ouais,
toi,
ouais.
Tu devais avoir 11 ans et Kim devait avoir 9 ans, un truc comme ça.
Ouais, c'était une autre vie.
C'est une autre vie.
Et donc bah, Lina est ma fille aînée, voilà.
Oui.
On passe le week-end ensemble, on en a profité pour exceptionnellement parce que effectivement ta petite sœur elle est restée à Lille avec votre mère tout simplement. On s'était dit avec Maï que ça serait cool de se retrouver à quatre pour parler d'adolescence, d'accord, pour parler de votre vie de jeune meuf adolescente. Et que nous, on ait une discussion. En fait, je crois qu'en plus, c'est pas des discussions qu'on a habituellement avec entre parents et enfants, quoi, d'une manière générale. Si vous,
bah, en
vous,
fait,
nous, on a régulièrement des conseils de famille. On fait le point sur notre relation. Chez l'EA, ils rigolent pas. C'est vrai.
Non, mais un peu.
Bah, nous,
un
on peu. Parle beaucoup, beaucoup, hein. Après, je pense aussi que moi, je parle beaucoup avec mes amis qui ont aussi leurs enfants qui commencent à être ados ou qui sont ados depuis un certain temps. Donc, ça circule pas mal quand même.
Ouais.
Et ça nous aide beaucoup. Hein, alors, c'est vrai que c'est plutôt entre mamans, je veux dire.
Bien sûr.
Il y a les mamans et Fab, quoi.
Non, mais il y a d'autres mecs aussi, j'espère, putain. Je suis pas le seul.
Ton papa, oui, ton oui, papa, oui. Tam. Ouais, ouais, ouais. On discute beaucoup.
Ok. Et tu vois, j'ai un peu l'impression, Maï, et désolé les filles, on joue mal de côté, mais qu'on nous. Tu vois, on nous a rabêché. Déjà, bon, j'ai la sensation qu'on nous a beaucoup menti sur la parentalité d'une manière générale, sur ce que c'est.
Total.
J'ai l'impression qu'il y a une sorte de tabou dingue, que les parents ne viennent pas expliquer clairement à leurs enfants à quel point c'est compliqué, quoi, vraiment. Tu prends ta vie d'avant, tu la balayes, quoi, tu vois. Et ça ne veut pas dire qu'on vous aime pas, attention, hein, faut bien mettre les choses à plat. Hein. Mais alors, l'adolescence, j'ai un peu la sensation qu'il y a ce truc de.
Non mais
l'adolescence, j'ai un peu l'impression qu'il y a ce truc de, on sait que c'est dur l'adolescence, tu vois, que c'est un moment compliqué, mais en fait, on vient pas nous raconter clairement ce que ça fait.
Ouais, ouais.
Mais pourtant, vous êtes des enfants cool, tu vois. Et je pense aux parents qui ont des enfants qui ont déjà des bails, tu vois, avec eux, qui sont compliqués.
Ouais.
Ok.
Bah, je pense que c'est peut-être pour ça qu'on fait ça aussi. Ouais. C'est parce que faut que ça circule et que.
Putain, mais elle me regarde.
Non, mais je pense que c'est difficile d'être adolescente et c'est difficile d'être parent d'adolescent. Parce qu'on vous aime d'amour, on a envie de vous accompagner et en même temps, on est totalement.
Perdu.
Voilà, pour le dire, on est totalement. Donc, non, mais c'est vrai.
On n'a pas l'expérience.
On n'a pas d'expérience. Et puis, vous êtes deux aînés. Donc, en fait, c'est la première fois qu'on est parents avec vous. Mmh. Et on n'a pas d'expérience. Et l'adolescence que vous avez, c'est pas du tout l'adolescence que j'avais. C'est pas du tout l'adolescence que ma mère avait ou que tes parents avaient, peut-être.
Bah oui.
Et donc, de toute façon, on ne peut pas avoir un retour d'expérience parce que, de toute façon, les époques sont tellement différentes et. Et vous, adolescents, vous êtes tellement différents de nous que, bon, moi, je ne peux pas m'appuyer sur mon adolescence. Par contre, ce que je peux faire, c'est... moi, j'avais un sentiment de solitude très, très fort. Mais alors, vraiment, j'avais pas d'amis, j'avais pas le...
Quand tu étais ado, tu veux dire.
Ouais, moi, quand j'étais ado. Et donc, du coup, je peux ressentir ça quand je vois ma fille et essayer de...
Tu te sens seule, toi ?
Ça m'arrive.
Ah ouais ?
Ouais.
Ok. Ça fait quoi ? Je vais poser des questions chiantes. Bah,
En fait. Je sais pas, c'est des moments où t'as l'impression que t'as. En fait, tu sais que tu peux parler à ta famille ou à tes potes, mais c'est pas la même chose. Parce que c'est des trucs. En fait, moi, j'ai pas trop de mal à parler de moi. Enfin, je suis hyper. Je suis quelqu'un, même avec mes amis, je parle de trucs hyper perso. Et même entre nous, on parle de trucs hyper perso. Mais il y a certains moments où. Je bloque sur certains trucs et j'ai l'impression que je les saoule ou c'est juste histoire d'en parler encore et encore. Et ce que je fais dans ces moments, c'est que de temps en temps, j'écris. Après, je brûle.
Ça
m'est arrivé. Non, mais genre, c'est bien.
C'est
parce
intense.
Qu'en fait, quand je me sens... Non, mais oui. Mais oui, c'est vrai. Mais quand je me sens seule, c'est bien
incité.
De... Non, mais il faut faire un truc genre...
Oui, c'est pour t'en débarrasser. C'est pour t'en débarrasser que tu brûles après.
Ouais, c'est pour essayer de lâcher prise ou.
Ouais, c'est un bon tip, ceci dit. Toi, Nana.
Je peins ou je dessine des trucs comme ça.
Ah ouais. Tu lâches.
Ouais, c'est ça. En fait, j'ai besoin d'extérioriser quand je peux pas forcément parler parce que sinon, je me renferme et ça finit pas quoi. Enfin, ça continue dans ma tête.
C'est ton héritage, ça, d'artiste, c'est ça ? Parce que moi, je t'avoue que je crois pas que dans la famille, on dise « Vas-y, sors un peu d'aquarelle et balance, quoi.
Bah, » je sais... Alors, Tam, elle est très, très douée en dessin. Ce qui est vrai, c'est que moi, j'ai pu m'appuyer sur les parties ratées, on va dire ça comme ça, les parties ratées de mon enfance et de mon adolescence, parce que je reconnaissais en Tam certains passages qui étaient identiques, où je me reconnaissais. Et donc, quand il y a des difficultés à la lecture, des difficultés avec une copine, moi, je trouvais ça hyper beau de voir ma fille, pas de l'avoir galéré, mais de l'avoir exprimé qu'elle galère. Parce que moi, je trouvais ça fou qu'elle puisse exprimer. Là, je galère totalement. Je me rappelle d'une discussion, quand t'avais 7 ans, avec une petite copine, du coup, qu'on va pas nommer, mais parce que c'est très important de pas nommer les gens. Mais, d'être capable à 7 ans d'aller la voir et lui dire « Écoute, vraiment, je t'adore. C'est pas du tout le problème. Je t'adore et on va rester potes très longtemps. Mais alors ça, c'est plus possible. » Et je me disais « Mais ça, c'est totalement fou. » Et moi, je voyais... Du coup, j'ai toujours aimé les temps où Tam m'exprimait des difficultés. Parce que, en fait, c'est toujours dur. C'est dur pour tout le monde et c'est dur tout le temps. Mais par contre, être capable d'exprimer que c'est dur, je trouve que c'est déjà énorme. Et donc, là-dedans, ben, ouais, l'écriture et puis la peinture, etc., ça lui a permis de dégager plein de trucs pour que ça s'amoncelle pas, quoi.
Ouais. Ouais.
Après, ça m'arrive rarement hein, d'écrire. C'est juste vraiment quand j'arrive pas à en parler, mais je parle très souvent. Non, mais sérieusement, hein, c'est très souvent. J'ai des débats, des discussions un peu sérieuses avec mes potes ou avec ma famille. C'est pas un truc... Enfin, j'ai pas de mal, en tout cas.
Ok.
Pas trop.
Lina, tu te sens seule, toi?
Ça dépend des moments. Mais il y a eu des moments très récemment où, oui, je me sentais extrêmement seule. Mais bon, vous êtes au courant.
Les gens qui suivent un peu l'histoire de Daron, j'ai raconté cet épisode...
De ma vie.
Voilà.
Qui a été un peu compliqué pour moi. Donc, oui, il y a des moments où je me sentais extrêmement seule. Mais là, ça va mieux. Donc, je suis en train de remonter un peu la pente. Et ouais, j'écris aussi énormément. J'ai pas brûlé des trucs que j'ai écrits. J'ai brûlé des photos, moi, mais j'ai pas brûlé des trucs que j'ai écrits. Mais j'écris énormément, ouais, pratiquement tous les soirs. Que ce soit sur mon ordi, dans un carnet. Après chaque DS, ils nous filaient des brouillons au collège. Et chaque sortie de DS, j'écrivais sur mon brouillon parce que je terminais toujours à l'avance. Et du coup, j'ai genre une cinquantaine de brouillons dans ma chambre avec des pages et des pages de moi qui écrit des trucs.
Mais t'écris quoi ?
Ah, j'écris tout ce qui se passe dans ma vie, tout ce qui me passe par la tête, juste même, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être genre, qu'est-ce que je pense de tel moment, qu'est-ce que je pense de telle personne, comment j'ai aimé ma journée, comment j'ai pas aimé ma journée. Si c'est un moment où je suis un peu plus triste, un peu plus seule, j'essaye de trouver le positif ou des trucs comme ça. Ou des fois, bah, je me renferme juste sur moi et je me plonge dans ma tristesse parce que je fais ça aussi des fois.
Oui.
Non, ça peut être une phrase qui m'a marquée, ça peut être n'importe quoi.
Ça te vient d'où ?
Ça me vient d'où ?
C'est qui t'a dit ça ? Qui t'a dit d'écrire ?
Je pense que ça me vient de toi un peu.
Ah
parce
ouais ?
Que je t'ai toujours vu énormément écrire, que ce soit pour tes articles, dans tes petits carnets d'idées ou je sais pas quoi.
Ouais.
Et je pense
que
ça...
jamais dit il faut que t'écrives.
Non, ça vient de ma psy qui m'a dit quand tu sais pas quoi dire, tu prends un carnet et tu écris.
Ah, donc ça vient de ta psy.
Ça vient de ma psy, mais je pense que je l'ai gardé parce que ça me faisait du bien et parce que il y a vraiment des moments où j'en ai besoin, où je sais pas trop à qui le dire ou comment le dire, et que il y a beaucoup de moments où j'arrive pas à poser des mots sur ce que je pense ou ce que je ressens. Et c'est dans ces moments-là que ouais, j'arrive à m'aiguiller, à m'analyser beaucoup mieux.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Et tu t'auto-juges pas quand t'écris ?
Si, toujours. Ah, ah mais après, vrai, après oui. Je me relis et des fois je suis là,
mais ah qu'est-ce que c'est que ça alors ?
Pourquoi c'est sorti d'où ? Et en même temps, je me dis, tu l'as pensé sur le moment, donc ça veut dire que ça avait raison d'être là. T'avais raison de le penser ou de l'écrire à ce moment-là de telle manière ou de... avec ces mots-là.
C'est pour ça que je trouve ça plus facile les dessins, parce que je trouve ça moins... c'est moins brut que écrire, je trouve. Parce que écrire, c'est vraiment, c'est les mots, c'est exact, exact entre guillemets. Alors que le dessin, c'est plus une émotion. Mm. Du coup, je trouve ça plus facile, personnellement.
Moi, il y a aussi des moments où je m'enregistre en train de parler et je défile et j'ai des enregistrements de 20 minutes de moi. Juste vide mon sac avant d'aller dormir. Il est minuit, une heure, je suis en train de faire une insomnie. Il y a plein de trucs qui me passent par la tête, que ce soit de comment je m'habille demain à le plus gros de mes problèmes du moment, ma dernière meilleure pote, comment ça s'est terminé, ou je sais pas, n'importe quoi, mais juste j'ai des enregistrements et des fois je me mets à pleurer tout quand je commence à parler. Enfin, c'est... Il y a des trucs, je réécoute ça le lendemain, je suis là, ah, j'ai vraiment fait ça. Bah écoute, il faut croire que j'en avais besoin, hein, d'une manière ou d'une autre.
Bah, c'est un peu le concept de la thérapie, hein. De toute façon, tu vas pour parler.
Exactement.
Si tu parles à ton téléphone, c'est comme si tu parlais...
Bah, après, Kimi Cool, le lendemain, elle me dit, t'as appelé quelqu'un jusqu'à tard hier soir? Non, je me parlais à moi-même.
Tu gueules dedans et tout?
Non, je gueule pas forcément, mais juste je parle et des fois je m'énerve un peu, du coup peut-être un peu je gueule, mais sans m'en rendre compte.
Il y a une ligne téléphonique pour crier.
C'est vrai?
Ouais.
Quoi?
Je te donnerai la ligne.
Il y a une ligne téléphonique
genre,
pour crier.
Genre je mets ça sur TikTok et c'est genre un numéro et t'appelles et juste en fait c'est une boîte vocale et tu cries dedans.
C'est un numéro français?
Non, il n'y a que des Américains pour faire ça.
Oui.
Mais non, c'est juste pour crier dedans. J'ai jamais utilisé, mais je le garde dans mes photos parce que c'est trop bien.
Ok. Bah, ceci dit, tu peux crier. Enfin, tu vois, là, tu peux sortir et crier, quoi.
Après, les gens croiront qu'il y a un but, mais sinon.
Ah, pas bête. Ouais. C'est bon. Pour remettre un peu de contexte, on enregistre pendant le match de foot. Il y a des gens qui écoutent. Tu sais, il faut toujours.
Et n'empêche, là, en vous écoutant, il y a un truc qui m'a vachement préparé pour l'adolescence quand même. Je m'en rends compte maintenant, alors que je l'avais pas lu pour préparer quoi que ce soit. C'était un livre en anglais. Je pense pas que ce soit encore traduit en français, mais qui dit grosso modo ça s'appelle le livre dont j'aurais aimé que mes parents lisent ce livre.
Ah oui. Okay.
Voilà.
Mais oui, mais j'ai vu.
Et cette femme, elle était thérapeute et puis maintenant elle est surtout écrivaine. Et dedans, elle dit que les parents veulent tellement que leurs enfants aillent bien qu'en fait les enfants n'ont pas d'espace pour exprimer qu'ils vont pas bien.
Le déni des parents.
Alors c'est pas forcément un déni, mais c'est vraiment comment ça va, je veux que tu sois heureuse, tout ce que je veux c'est que tu sois heureuse. Et en fait l'enfant il grandit avec trop d'options. Sur lesquels il doit faire des choix et sur lesquels il doit, pour protéger son parent, être heureux du choix, quoi. Mmh. Et en fait, c'est pas nécessairement...
Et en plus...
Hein?
Non, j'allais dire, en plus, t'as vraiment envie que tes enfants soient
bien
heureux.
Bien sûr, oui.
Tu vois,
oui,
c'est
oui,
vraiment...
Genre,
un... Non, mais enfants... je crois que tu dis oui, mais tu t'en rends pas compte.
Ouais.
Parce que tant que tu l'as pas vécu dans ton ventre, tu vois, ce que ça fait de voir ton enfant malheureux, c'est pas... Tu dis oui, mais ça, c'est en théorie, tu vois.
Oui.
La pratique, après, meuf.
Non, mais c'est ça.
C'est dur.
Et du coup, quand j'ai lu ça, ça m'a vachement relaxée sur le fait de voir mes enfants qui vont pas bien à certains moments ou qui sont super en colère ou qui ont honte ou qui ont de la frustration. Et du coup, je pense que ça m'a vachement préparée à l'adolescence de Tam et à la préadolescence de Léo. Voilà, de me dire, bah écoute, ok, il y a de la frustration, ok, il y a de la colère. Et de pouvoir mettre des mots dessus. Et ce qu'elle disait, c'est beaucoup plus sain d'accompagner votre enfant en verbalisant les émotions dites négatives qu'il est en train de traverser que de vouloir qu'il aille bien. C'est plus accompagnant, quoi. Je pense que ça m'a bien...
Mais c'est ouf.
Ouais, et ça m'a vachement aidé, en fait.
Bien sûr.
Ouais.
Quand Lina a eu son épisode en HP là avec Kat, on s'est regardé et en fait on avait l'impression tellement d'avoir échoué, tu vois, lamentablement, et c'était terrible en fait parce qu'on n'avait pas envie qu'elle aille pas bien, et d'un autre côté elle allait pas bien, et en fait c'était génial. J'en ai pas reparlé dans le podcast parce que donc j'avais fait un épisode où je racontais un petit peu à quel point c'était compliqué, et j'ai plein de gens après qui m'ont écrit pour me dire en fait si elle a fait la démarche de demander de l'aide, c'est que déjà vous aviez créé l'environnement, parce que nous on avait tellement l'impression d'avoir raté, si tu veux, et puis surtout bah tu vois t'avais pris cette décision là de demander de l'aide et d'aller en HP, et pour nous c'était un peu le truc de bah donc en fait ça veut dire qu'on est en train de rater, quoi, tu vois, c'est ça, alors que
pas du tout. Et puis en plus alors ça c'est dans un autre bouquin de et voilà, vers 14 ans les enfants ils ont besoin d'avoir d'autres adultes référents, et les parents c'est d'une certaine manière, ils doivent pas les tuer, mais ils doivent s'en débarrasser ou leur dire bon maintenant Et ça, franchement, pour moi, c'est...
C'était dur pour toi.
Douleur totale.
Ouais.
Non, mais le fait de plus être la référente principale de Tam, c'est tout ce que je lui souhaite.
Depuis quand j'étais plus ma référence moment j'étais quoi ?
Non mais tu vois, si à un moment donné tu rentres de vacances et que ton premier coup de téléphone, ça va pas être ta mère, ça va être Aimé, enfin pardon, je
tes potes.
Non mais ça va être tes potes et aujourd'hui le groupe référence c'est le groupe des amis et c'est très très sain. Mais pour moi, voilà. Moi, je trouve ça mais affreux, quoi. Affreux. Je suis pas du tout prête. Mm. Et le fait d'avoir cette ligne tangible du départ de Tom.
L'intensité.
La meuf a 15 ans. Donc, je suis pas du tout hystéro. Mais en tout cas, c'est un truc. Tu vois, c'est comme pour mes 40 ans. Faut que je me prépare à ça. Mm. C'est vraiment un truc qu'il faut que je me prépare parce que elle doit vivre sa vie et.
Ça c'est super. J'ai un épisode d'Histoire de Daron là, ouais, qui est sorti la semaine passée, donc où le mec, ses enfants, ils ont 16 et 14,
ouais,
et ils ont un an d'avance. Et il y en a une autre qui part en centre de formation, si tu veux. Donc ouais, ils partent la même année, wow, les deux en même temps.
Wow.
Mais ils chialent sa race en fait.
Bien sûr,
là, putain, mais merde, elles s'en vont, ils s'en vont quoi, tu vois. C'est fini, adieu. Mm-hmm. Ils vont vivre leur vie. Vraiment, voilà, c'est déchirure totale.
Bah je comprends. Moi, je suis partie à 17 ans, donc tu vois, Tamel en a 15. Enfin, pour moi, c'est très tangible en fait, il y a un truc comme ça.
Mais je t'avoue que, enfin je sais pas comment tu le vis Lina toi, mais nous c'est un peu un truc qu'on leur a inculqué aussi, ouais, tu vois, depuis le plus jeune âge, parce que c'est un peu différent pour vous, parce que vous avez grandi à Paris, vous avez vécu à Paris, vous avez grandi à Paris, et en fait à Paris il y a une foule de possibilités quoi, tu vois. Mmh. Nous on a grandi avec Kat dans le fin fond du Nord, et pour nous l'idée c'est que même en fait à Lille c'est encore, il y a pas assez d'opportunités en fait, tu vois, il faut forcément à un moment donné aller ailleurs parce qu'il y a forcément d'autres choses qui se passent, et voire même ailleurs dans le monde quoi, tu vois, parce que la France en fait c'est un pays cool par plein d'aspects, mais c'est aussi un pays culturellement comme ça quoi, t'as envie de leur dire barrez-vous quoi. Non, qu'est-ce que t'en dis?
Si, depuis toujours, hein. Moi vous m'avez toujours dit tu fais ce que tu veux, tu te tailles mais le plus vite possible de là, vraiment les limites, c'était un peu limite on te fout à la porte, hein, mais
peu,
sans forcément, voilà.
Un peu, ouais.
Mais oui, j'avais pour projet de faire genre un an aux États-Unis pendant mes années lycée, au final ce sera reporté après parce que j'ai pas envie de partir pendant mon lycée, mais ils ont toujours été derrière moi, mes parents ont toujours été derrière moi pour me dire bah, si tu veux le faire on te le paye, ça sera l'un des meilleurs souvenirs de ta vie. Donc.
Maintenant, je suis plus si sûr, hein, tu vois, qu'on a divorcé et tout ça.
Ouais.
On en reparlera.
Ah ouais, d'accord.
L'argent.
Non, mais vous avez toujours été derrière moi pour me dire, en fait, fais ce qui te rendra bien et heureuse, va là où tu dois aller, et dans le pire des cas, on est derrière toi, tu nous appelles quand tu veux. Et pas de nouvelles, bonnes nouvelles, comme tu dirais.
Bah ouais.
Ouais.
Je croyais que t'allais dire un truc, Tam. Non, du tout.
Non, non.
C'est quoi pour vous être une adolescente aujourd'hui, en 2021 là?
Oula.
Bah ouais, je sais. C'est bizarre. Oula. C'est très large,
c'est
comme
c'est
question.
Très
en
large,
fait.
Ouais.
Bah vas-y, dis ce qui vient en prems. Et puis on va détricoter
là-dessus.
Qu'est-ce
que c'est que ton adolescence?
Oui.
Votre
oui, pas l'adolescence.
Bah je sais pas. Enfin.
Nana.
Bah,
est-ce que tu peux filer un coup de main à ta main?
L'adolescence, en 2021, qu'est-ce que c'est?
Bah, d'abord, d'être une meuf adolescente.
C'est
important aussi.
Alors, moi, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est le fait que j'ai des formes plutôt développées. J'ai donc une grosse poitrine. Et j'ai pas tendance à forcément la couvrir. C'est vraiment mon mot d'ordre de l'été, c'est le moins de tissu possible sur moi. Donc, cette année, j'ai fini par arrêter de regarder les gens qui regardent et de regarder les mecs dans la rue, voir s'ils regardent mon décolleté ou pas.
Ah, tu les regardais?
Ah, il y a vraiment des moments où genre, je croisais des mecs et je pouvais pas m'empêcher de ne pas les regarder dans les yeux parce que je savais qu'ils allaient regarder mon décolleté.
Ok, ça te faisait quoi?
Ça me faisait peur. Ça me fait peur. Ça me fait peur et ça me rend un peu honteuse aussi parce que je suis un peu là genre, on va remonter le top court que j'ai mis ou le décolleté que j'ai mis. Mais derrière, le dernier jour, j'ai croisé un animateur de ma primaire dans le tram.
Ok.
Et la première chose qu'il a fait, c'est regarder mon décolleté. Et j'ai
sympa.
J'ai vraiment envoyé, j'ai envoyé un message à une pote en disant, est-ce que ça te rappelle quelque chose? J'ai décrit le mec. Mm. Et elle m'a dit, ah mais clairement c'était notre animateur. Et j'étais là, ah ouais, bah en fait je me suis vraiment pas trompée, c'est vraiment une personne qui m'a élevée de mon CP à mon CM2. Et qui aujourd'hui, maintenant que j'arrive dans le tram en courant, regarde mon décolleté. C'était un moment un peu...
Et est-ce qu'il t'a reconnu ?
Non, pas du tout.
Et pourquoi tu lui as pas dit « Salut machin, tu te souviens pas, t'étais avec... » Histoire de voir, parce que tu te dis a priori, le mec il est pas foncièrement méchant.
Non,
quoi,
parce
vois,
que j'étais pas sûre que ce soit mon animateur, parce que vraiment sur le moment j'étais un peu là, genre sa tête me dit quelque chose, mais j'ai oublié d'où il vient. Et du coup j'ai envoyé un message à cette copine, et plus tard dans la soirée elle m'a dit ouais, oui.
Ah oui, ok.
Le mec m'a...
Tu l'aurais fait si tu l'avais...
Non, j'aurais pas eu les couilles. Franchement, pas du tout.
Et pourquoi Et c'est pas pour te...
Non, parce que je me voyais pas lui dire... En fait, je me vois pas répondre parce que j'estime ne pas avoir la corpulence de s'il me tape répondre.
Mais il va pas taper, lui, c'est ton animateur.
Je me sentais extrêmement gênée d'aller lui dire bonjour, vous m'avez accompagné pendant vraiment 6 ans de ma vie, aujourd'hui vous êtes là, vous regardez mon décolleté quand j'arrive
dans le
train.
T'aurais pu lui dire ça, ouais, voir sa réaction.
Ouais, mais c'est chaud.
Non, mais vraiment.
C'est le genre de truc, t'y penses, mais tu le fais jamais.
Ouais.
Mais alors, pourquoi? Et pourtant, vous êtes deux meufs...
bien woke. Hein.
Ouais.
Vous avez taffé, quoi, tu vois. Et malgré tout, c'est quelqu'un que tu connais, tu vois. Donc, a priori, je crois pas qu'il y ait de possibilité, tu vois, de violence. Le mec, il va pas te taper si tu lui dis ça, tu vois.
Non,
si tu vas lui dire, souviens-toi, moi, j'étais une toute petite, là.
Ouais, mais je pense aussi, si tu réagis, c'est donner de l'importance au truc. Je sais pas comment dire, mais moi, si ça m'arrive, j'ai plus la flemme, je me dis, ça me saoule, mais autant continuer à marcher et aller faire des trucs plus intéressants que aller parler à un autre gars. Alors qu'en soi, parler à un gars qui mate mon décolleté, ça avancerait peut-être plus. Enfin, ça ferait avancer les choses.
Mais surtout, tu racontes que t'as honte. Ouais. Enfin, je sais pas toi comment tu le vis aussi.
Moi, j'ai pas honte, j'ai envie de leur casser la gueule. Non, mais sincèrement, j'ai 15 ans et t'as rien d'autre de mieux à faire que juste genre. Enfin, je sais pas, regarde-moi dans les yeux ou me regarde pas, mais enfin. Porte pas autant d'importance à mon décolleté, je sais pas, en plus ça se voit que je suis mineure, ou même si ça se voit pas, en fait, juste ça se fait pas, parce que tu verras jamais une meuf, jamais, tu verras même une lesbienne, tu verras jamais une meuf qui va te regarder comme ça quand elle te dit bonjour, quoi.
Voilà, il faut que je vous raconte un truc quand même.
Oh.
J'ai super honte, mais il faut que je vous le raconte quand même, et je sais pas, enfin, bon, on verra si tu coupes, si c'est pas important. En fait, donc c'était il y a 10 ans.
On sent les dossiers.
Dossier. Donc c'était il y a 10 ans, je vais à un rendez-vous avec une cliente, avec mon agent, il y avait ma cliente et tout. Et ma cliente, elle a une forte poitrine. Et elle était venue, elle avait un super beau décolleté.
Je sens venir le truc.
Et en fait, je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Donc on attend. Donc moi, j'ai pas de seins. Donc c'est tu vois, les seins qui se touchent avec la ligne au milieu, là, c'est juste mon fantasme total, tu vois. Mais pour moi-même, je suis pas lesbienne, mais et en fait, on attendait l'ascenseur et je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis penchée sur son décolleté et j'ai mis mon index sur son sein.
Mais non.
Et j'ai fait pouette. Là, l'ascenseur s'ouvre. L'ascenseur s'ouvre. Personne ne... Enfin, tu vois, on était toutes rouges pivoines parce que... Mais qu'est-ce qui s'était passé? Là, je la vois, mais rouges pivoines, on rentre dans l'ascenseur. Personne ne parle, tu vois, tout le monde se regarde comme ça, mais...
C'est génial.
Sidéré.
C'est horrible.
Il y a quelqu'un qui sort. Les poules se referment, ma fée. C'était mon boss qui était à côté de nous quand j'ai fait pouette sur ses seins. Et vraiment, je peux pas dire ce qui m'a fait faire ça. On était morts de rire, hein. C'était pas un moment, enfin on était gênés, mais on pouvait plus s'arrêter de rire. Et en même temps, je peux pas vous dire ce qui m'a fait faire ça, quoi. C'était pas un truc de prédation, c'était pas un truc sexuel, c'était...
Une forme de curiosité ou...
Ouais, peut-être, tu vois.
De comment ça marche.
Mais ouais, c'est ça, ça fait quoi de voir pouette.
Mais ça me fait penser
un peu à... Est-ce que ça fait pouette quand on appuie, quoi?
Ouais, c'est ça.
C'était un peu ça. C'est un truc hyper infantile.
Voilà, j'allais dire, c'est les enfants un peu, tu vois, qui cherchent
le regard de Tom, il est...
Ta fille te juge très fort.
Mais j'ai présenté mes excuses et tout. Hein,
mais
t'as eu un moment de dissociation ou...
Bah ouais, j'ai eu un moment de dissociation. J'étais en dehors de moi. Ouais,
le fantasme des gros seins m'appelle, quoi, tu vois, à un moment donné.
Ouais.
Mais ouais,
après, j'ai des copines qui ont des gros seins et c'est un jeu. tu en es mort de rire.
Ah, tu fais ça à tes potes aussi?
Non, je fais pas ça à tous mes gros seins. J'ai une copine qui a des très gros seins et tu vois, tout le monde vient, tu vois,
oui.
Il y a un truc se comme lover. Ça, mais elle accueille ça et ça, oui. Et ça fait partie de.
Elle a l'habitude, j'imagine.
Oui, elle a l'habitude et ça la fait rire, c'est surtout ça. Elle, oui. Elle a pas honte, oui, oui, oui. Elle a pas. Ça la fait rire.
Ça va?
Mm-hmm. Voilà.
Ok. Bon. Tam, t'as l'air d'avoir un peu honte de ta mère, mais ça aussi, ça oui. Fait partie de la relation. Enfant-parent, quoi, tu vois, j'ai envie de dire.
Mm. Non, en fait, j'y crois pas, là, je suis en train de process ce qui vient de se passer.
De quoi on parlait?
Bah, je suis pas fière, mais.
Des formes.
Voilà, ça s'est passé.
Bah oui, le truc que je voulais dire, Tam, par rapport à ça, c'est. Tout à l'heure, t'as dit, mais je préfère aller de l'avant, tu vois, et faire autre chose, etc. Et pourtant, vous dites un peu que. Enfin, je sais pas toi, Tam, mais Lina, toi, tu disais que t'avais un peu honte, tu vois, de ce fait-là. Enfin, en tout cas, t'es en train de peut-être de dépasser ça. Mmh. Mais je crois que c'est cool à un moment donné de prendre ta honte à toi et de la remettre de façon ouais. Très cool mais dans le camp du gars, quoi, tu vois.
Mais je sais pas, en fait, comme ça se passe pendant une seconde, tu vois, j'ai pas le réflexe d'avoir la réaction que je devrais avoir, entre guillemets, enfin que j'aimerais bien avoir en tout cas.
Oui.
Genre ça, j'aimerais bien en fait aller vers le gars et lui dire: bon, écoute, mec, j'ai 15 piges, je vois pas pourquoi tu fais ça, moi je me sens juste hyper mal parce que j'ai un décolleté, c'est juste pas ta place. Merde, point. Au revoir. Je sais pas, mais enfin faire quelque chose. Et en fait, déjà quand ça se passe plusieurs fois par jour ou plusieurs fois par truc, t'as la oui. Flemme. Et puis c'est ça en fait, la seconde où vous vous croisez, tu le fais pas. Et bah du coup c'est déjà trop tard. Ouais. Tu vois, t'es déjà loin et tu vas pas le courir après.
Oui, pour le coup quand tu te croises, ok. Mais tu vois par exemple quand il est dans le tram avec toi, ouais. Qu'il est pas trop loin de toi, quoi. Tu vois, t'as ouais. Un moment donné où tu peux te dire, ok, j'ai peut-être un shot, quoi. Mais non, bon, mais encore vrai. Une fois, c'est pas du jugement,
c'est
tu vois.
C'est derrière. Vrai que c'est un coup, en fait.
Bien sûr.
Tu vois, d'aller voir la personne, c'est un coup. Hein.
C'est un coup, et d'un autre ouais. Côté, je me dis, bah, c'est peut-être aussi une façon de faire en sorte que ça s'arrête.
Mais non, ça, c'est sûr.
Mais c'est comme la dernière fois, je sais pas si tu te souviens, en rentrant chez mon père, j'étais en crop top, je crois, je sais même plus si j'avais un décolleté, et tu te souviens, il y avait un vieux gars qui m'avait dit... Ouh, vous êtes très mignonne, un truc comme
ça. Il était tout vieux, il avait genre 90 ans.
Et je sais pas, ça m'a tellement saoulée sur le moment parce que j'en pouvais plus. Et j'ai regardé, je vais, mais. Enfin, ta gueule peut-être. Et je suis partie.
Ah, tu lui as dit ta gueule.
Ah ouais, je lui ai dit, mais je sais pas pourquoi, j'ai vraiment. J'en peux plus.
Parce que t'en avais marre.
Et parce qu'en plus, mon frère après m'a dit, il faut s'y attendre. Et là, j'ai fait, mais.
Oui, ton petit frère, il a. Pour remettre un peu.
Il a dit, je dis pas que.
Il a quel âge? Il a 11 ans, 12 ans?
Il a 11 ans, ouais. 12, 13. Bon, bref. Et la vie, je dis pas que ça pardonne ce qu'il a fait, je dis juste que bah, si t'es habillé comme ça, ça peut provoquer ce genre de réaction. Et je sais pas, genre, en soi, c'est vrai. Tu
oublies pas de parler.
Oui, pardon, je parle dans le micro. Mais après, on s'est un peu engueulé avec maman parce qu'elle me disait, mais t'avais pas à lui dire ça. Et lui, c'est un vieux monsieur, il vient d'une autre génération. Et soit tu lui parles vraiment, ouais, t'as pas cette réaction, t'as pas le droit d'avoir cette réaction. Et je sais pas, j'étais super énervée.
Ouais, parce que après, j'avais l'impression que d'avoir dit ça oui, à mais parce que ça lui mettait une injonction ou c'est peut-être moi, tu vois, en mais tant non, que maman, qui aurait dû aller voir le gars en disant en fait on est en 2021 donc en fait on fait plus ça. Vous faisiez ça quand parce que vous avez voilà, vous avez 90 ans, ça se faisait et pour vous c'est un truc gentil. Il y a une belle fille qui passe dans la rue la dernière fois je regardais un documentaire sur Cuba où tout le monde se siffle dans la rue et tout le monde se dit t'es trop belle, j'ai envie de toi.
Mais si tout le monde se le dit,
j'ai envie de toi, mais c'est
voilà. C'est ça, c'est bien.
Quand c'est un gars de 90 ans qui dit à une meuf de 15 ans, c'est pas la même chose. Ouais, non, en fait, si, c'est la même chose. Moi, je pense que si j'ai 25 sociétal. Et qu'il y a un gars de 25 qui me dit ça, c'est, je trouve ça bizarre aussi.
Non, ce que je veux dire, c'est que par rapport à l'exemple de Cuba, si c'est sociétal, tu vois, qu'à un moment donné, t'as envie de dire à l'autre que tu le trouves beau et que c'est, en fait, c'est réciproque, ça va dans les deux sens, c'est cool, quoi.
Ouais, c'est cool.
Non, mais t'as différentes façons de faire un compliment aussi, parce que là, en soi, c'était pas méchant, mais s'il était juste venu, genre, excusez-moi vraiment, je vous trouve très jolie, bonne journée, quoi, merci, au revoir, moi, j'aurais fait, bah, c'est hyper gentil. Limite, après, j'aurais été super heureuse, genre, bah, comme quoi, je me suis bien habillée, j'étais fière de ma tenue, quelqu'un me l'a dit, je suis contente, tu vois, mon ego, il est remonté. Et bah non, enfin, c'est vraiment des manières de dire les choses qui changent tout, quoi. Enfin, qui changent l'expérience de chacun, en plus. Enfin, je trouve.
Toi, Nana? Je t'ai déjà vu faire une story où tu filmais un gars, c'est ça?
Ouais, il y a plusieurs gars qui m'ont... Enfin, même maintenant, je prends de plus en plus mon vélo. La dernière fois, c'était un gars qui a... Un Deliveroo qui passait, qui a joué avec sa sonnette en me disant « Ouais, t'es belle !» J'étais là « Yes, merci, monsieur !» Super, dans la montée et tout. En plus, je m'étais arrêtée, j'étais là « Non, quoi ? Pourquoi il me parle ? Que me dit-il » Et après, c'était pas intéressant au final, du coup.
Ah oui, ok.
Enfin, tu vois, moi, je pensais qu'il me disait un truc important, genre j'ai un problème ou un truc comme ça, alors que pas du tout, non. Il était juste là, vous êtes vachement jolie. J'étais là, merci, bonne journée. Mais c'est pareil, que ce soit dehors ou même j'y pense encore là. C'est un truc qui m'est revenu à l'esprit, une anecdote quand j'étais au collège, donc l'année dernière. Il faisait super chaud, c'était la canicule. On était un groupe de 6 en rond, en crop top. Il y a un surveillant qui passe. J'avais le top le plus long et le plus long de toutes mes potes. Et c'est moi qui me prends la remarque.
Ah, alors tu veux dire parce que t'as plus de 5 que tes copines?
Parce que j'ai plus de 5, ça se voit plus du coup. Alors qu'on était 6 avec un crop top plutôt similaire et qu'elles, on voyait leur dos. Moi, juste, il est arrivé, j'étais de face, on voyait mes seins. Bah, c'est moi qui prends. Donc je lui dis, bah, monsieur, enfin, autour aussi, elles en ont. Il était là, oui, mais c'est toi que j'ai vu. J'étais là, d'accord. Bah écoutez,
ça te tombe dessus,
merci beaucoup.
Désolée.
Mais non, après, j'ai une très bonne relation avec mon CPE, pas du tout malsaine, etc. Du coup, il sait que... Enfin, il a tendance à pas me dire, genre, ton haut est trop décolleté, mais plutôt couvre-toi.
Mais c'est...
C'est alors, un peu pareil, mais...
À ta décharge et à la décharge de ce monsieur, on a eu l'idée... qu'on jugera comme on veut, mais de te mettre dans un collège cadeau.
Moi aussi, je suis dans un privé cadeau. Hein.
Voilà, ce qui est... Avec le recul, je me dis, écoute, pourquoi ? Mais ça fait partie des trucs que toi, tu te prends dans la gueule très régulièrement par rapport à tes tenues et tout.
Ouais, mais je le prends plus forcément mal. Il y a un moment où vraiment, je le prenais pour moi et genre, je prenais ça comme une remarque vraiment méchante et juste dans le but de me rabaisser. Alors qu'aujourd'hui, bah, je comprends que dans le collège, il faut avoir pas une tenue plus respectueuse, mais j'ai eu un nombre de débats incalculables avec lui sur ça. Ou une tenue un peu plus... c'est comme pour aller travailler. Il y a des hommes qui mettent pas un jean, ils mettent un costard-cravate. Ça reste différent, mais je sais pas comment dire.
C'est,
mais genre,
c'est un peu pas... Enfin, je comprends ce que tu veux
c'est,
dire. Ouais,
c'est,
ouais.
Il y a plusieurs tenues différentes pour d'occasions différentes. Du coup, bah, je comprends plus la démarche de... Après, collège catholique, hein, ça reste quand même très, oui. Très peu de ventre. Et, voilà, mais...
Le moins de peau possible.
Le moins de peau possible, exactement. Mais non, au fur et à mesure des années, j'ai fini par juste dire ok, si je mets en haut, j'accepte la remarque, quoi. Je le prends plus personnellement.
Ok.
Oui, en fait, tu te dis la règle, c'est celle-là, moi j'enfreins la règle, donc
j'assume, voilà, j'assume les conséquences.
J'assume d'avoir une remarque. C'est ça que tu dis.
Oui.
T'avais l'air pensif, Tam, je te voyais écouter.
Pas. En fait, je suis d'accord qu'il y a certaines tenues pour. Pour un certain espace de travail, costard, d'accord, je comprends. Mais en fait, c'est la raison derrière, tu vois, le fait que toi, tu prennes plus une regard parce que toi, t'as une plus grosse poitrine. Je veux dire, c'est pas toi qui as choisi ta poitrine. Et je trouve ça juste... Enfin, moi, ça me met hors de moi qu'il y ait des... Non, mais sincèrement, c'est genre, moi, une fois, je suis venue en robe et c'était... du coup, vous pouvez pas voir parce que c'est un podcast. c'était... je sais pas comment décrire, c'était comme ça. Enfin, en dessous des épaules, j'avais... En fait, il y avait pas de bretelles.
Un bandeau.
Oui, voilà, un bandeau. Mais c'était une robe, donc vraiment. Et il y avait pas
épaules...
de décolleté, il y avait les épaules.
T'avais
et
les épaules
ma nuque, quoi. Voilà. Et je me souviens, j'avais eu... pareil, avec mon CPE en débat. Et il m'avait fait... au début du débat, il y a un peu trop de peau, Tam. Et j'avais pas qu'à là, parce que je me suis dit, bon, s'il me dit pas de mettre ma chemise, je la mets pas, parce que j'ai la flemme de comprendre ces sous-entendus de merde. Et une heure plus tard, il me fait, là, par exemple, je t'ai dit qu'il y avait trop de peau, t'aurais pu comprendre que tu devais mettre ta chemise. Et je me suis dit, mais mec, en fait, soit tu me demandes de mettre ma chemise, soit tu me fais pas de remarques, mais il y a pas de moyen d'entre-deux, comme ça, genre... je trouve... Enfin, pour moi, il y a un peu trop de peau. Mais en fait, j'en ai rien à faire de ton avis, tu vois.
Tu lui as dit ça ?
Ben non, mais je l'ai dit. Non, mais je l'ai dit. Sincèrement, je l'ai dit. Vous auriez pu me dire... de mettre ma chemise au lieu de faire des sous-entendus. Il a dit, non, mais je pense que t'es assez intelligente pour comprendre. Genre, mais c'est pas du tout le débat.
À toi de décoder, tout, d'accord.
Non, c'est complètement...
Le langage codé des adultes, quoi, tu vois.
Non, mais j'avais compris le langage codé.
Bien sûr.
Mais je voulais pas rentrer dedans. Voilà, c'est ça.
Mais t'as tellement bien fait.
Mais t'as tellement bien fait.
Je sais. Mais du coup, je l'ai mise, ma chemise. Ça m'a saoulée.
Mais En fait, c'est aussi tout le débat de les filles doivent ne pas exciter les garçons parce que ça va nuire à la scolarité des garçons. Donc c'est tout ça qui est en dessous et qui est dégueulasse. Et les garçons de leur âge, ils s'en foutent, ils sont avec elles tous les week-ends.
Je suis vraiment pas d'accord parce que j'avais un décolleté très similaire à celui que j'ai aujourd'hui. Et moi, je regardais pas, mais je parlais à deux gars et il y avait une meuf avec moi. Et elle m'a dit, mais tu t'es pas rendu compte que vraiment, ils ont passé 5 minutes à regarder ton décolleté. Et je lui ai dit, non, parce qu'en fait, moi, je préfère ne plus faire attention. Parce que maintenant, je préfère ne plus regarder où les garçons regardent, que ce soit de mon âge ou pas de mon âge. Hein. Parce que sinon, ça me fait un petit frisson de...
Ah, je comprends, mais du coup, on ne dit pas du tout des choses qui sont contradictoires. Oui. C'est-à-dire que les garçons, ils peuvent regarder ton décolleté ou... Enfin, moi, quand je vois un beau mec passer, je le regarde passer, je suis hyper contente de l'avoir vu passer. Je dis merci, gratitude. Ça ne veut pas dire que je vais aller l'interrompre et que je vais lui mettre la charge de dire comme il était trop beau ou trop bien sapé ou qu'il avait un crop top, ça m'a détournée de ce que je devais faire et je lui mets la faute sur le fait que moi j'avais un objectif à remplir qui était d'avoir des bonnes notes ou d'envoyer le mail que je devais envoyer. Et bah non, en fait, je prends la responsabilité de ce que je fais, de ce que je regarde et de si je vois une nana ou un mec qui me plaît, je suis émoustillée ou peu importe, fine, so what. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on devrait déjà dire que c'est mal? Enfin, tu vois, si...
Je crois qu'après, si t'as la personne qui est en face de toi et qui te regarde pas dans les yeux et qui...
Bien sûr, mais c'est pas la faute de la femme, tu vois.
C'est pas la meuf de s'habiller... Enfin, après, non, je sais ton avis aussi, mais
je crois qu'il faudrait expliquer aux garçons et aux gens d'une manière générale...
Personne leur dit, en fait.
Que, en fait, quand tu regardes pas les gens dans les yeux, ça se voit en face.
Ça se voit. Mais bien sûr, tu le sais pas.
Ça se voit pas, en
fait. Il faudrait expliquer aussi aux garçons que si on se fait belle... ou que on met moins de tissu, c'est pas pour qu'ils nous sautent dessus. Il faut absolument qu'on leur dise, et je pense que c'est totalement recevable comme message. Et cette année, tu me dis Tam si t'as pas envie, mais cette année, les groupes sont plus mixés. Avant, Tam n'avait que des amis filles. Et je crois pas que les garçons, parce que vous avez des crop top ou
ils sont
totalement perturbés et que
ça les rend pas
violents quoi. C'est vraiment un truc sur lequel on peut se mettre d'accord.
C'est nous en tant qu'adultes qui sexualisons quelque part.
Oui, mais c'est ça. En fait, j'ai l'impression que moi ça pose qu'un problème aux adultes. Enfin, personnellement, dans mon lycée, c'est vraiment il y a que les adultes qui font des remarques et tout, mais entre gars, entre meufs, enfin on s'en fout quoi. C'est pas vraiment,
t'as
moi
pas
j'ai
la même
des
expérience,
potes.
Toi
c'est pas que j'ai pas vraiment la même expérience, mais faut tomber sur les bons gars quoi. Mais de toute façon, il y a des connards partout, on est d'accord, mais il y en a quand même qui sont capables de, même si c'est tes potes et tout. Après, moi j'ai toujours eu plus des potes filles que des potes gars, mais j'ai des potes gars qui sont adorables et qui m'ont jamais rien dit sur comment j'étais habillée. Et à côté de ça, j'ai un gars il y a 2 semaines qui est mon camarade dans ma classe, toute l'année, à chaque fois que je mettais un truc un peu moulant ou qui me mettait plus en avant que le reste, quand j'avais un pantalon en fluide par exemple, qui me disait parfois pendant une semaine, ton pantalon de la semaine dernière était trop beau parce que justement il me mettait en avant. Et c'est ce même gars qui...
Ça veut dire quoi te mettre en avant?
Ça veut dire qu'il remontait mes fesses, donc on voyait que j'avais des fesses, tu vois.
Ah, okay.
Et du coup, le mec, des fois pendant une semaine, il m'envoyait des messages où, quand il me voyait, il me disait: putain, ton pantalon, il était trop beau la dernière fois.
Mais ça, c'est un compliment.
Ça te fait quoi?
Je le prends vraiment pas comme un compliment parce que les trucs plus larges, il le disait jamais, tu vois. Et après, il a aussi eu ce genre de comportement où j'avais une jupe, j'ai sauté pour essuyer le tableau et il a dit: tu veux pas ressauter? Et après, il a dit: j'aime bien les écolières en jupe comme toi. Et j'étais vraiment là, genre...
Ta gueule. Ferme ta gueule.
Tu lui as dit ta gueule?
Non, parce que j'étais en classe et que j'allais me faire défoncer et que prendre une heure de colle la dernière semaine, ça m'aurait pas plu. Mais,
il s'est pas fait défoncer parce qu'il disait: j'aime bien les écolières.
Non, parce que personne l'a entendu, parce qu'il y a que moi qui l'ai entendu, parce qu'il l'a dit tout bas, parce qu'il l'avait un peu... Enfin, je sais pas du tout.
T'aurais
pourquoi,
pu aller lui dire tout bas: ta gueule. La prochaine fois, ta gueule.
Ouais, en même temps, tu vois, c'est quelqu'un que je verrais plus après, donc franchement. Mais là, on reste sur le même sujet de perte de temps et de
ouais, c'est ça.
Avancer vers l'autre, c'est comme tout à l'heure.
Enfin, si c'est son pote en classe.
Oui,
en
fait, non, mais oui, mais c'est un peu la même, c'est un peu le même schéma, mais... finalement.
Ouais, c'est ça. C'est.
Mais j'ai l'impression que les filles, vous avez aussi toute une charge de d'éduquer les gars. Avec
je suis pas sa mère non plus. Je suis personne pour lui. Je suis pas sa mère. Je suis pas sa daronne. Je suis pas là pour lui dire. Alors ça, tu dis, ça, tu dis pas, d'accord.
Moi j'aime bien.
Moi j'adore.
Bah, y a sincèrement le nom. Non mais c'est vrai. Le nombre de débats que j'ai avec mes potes ou pas mes potes, mais les mecs de ma classe ou même les profs, j'adore avoir des débats parce que j'ai l'impression que, enfin, avoir un débat, c'est pas engueuler la personne ou quoi, mais juste essayer d'avancer ensemble. Et je me dis là, au moins, il fera plus ça et ça me remplit de joie parce que je me dis déjà moi ça m'a saoulé. Mais
est-ce que tu peux donner un exemple?
Mais c'est pas trop, c'est pas sur le dress code, mais par exemple avec mon prof de RHS, réflexion humaine et spirituelle.
on vous a dit, hein, c'est collège catho.
Et on avait un débat sur l'inclusion des LGBTQIA+. Et j'avais une pote qui avait fait exprès de choisir ce thème de débat parce qu'on savait que c'était un peu touchy et que ce prof, il était assez fermé d'esprit, voilà. Et moi, toutes mes potes... En fait, il y avait vraiment trois personnes qui participaient. C'était trois meufs, dont moi. Et tout le reste dormait parce qu'ils pensaient que c'était une cause... Enfin, que le prof, en fait, il allait juste rien comprendre parce qu'il est trop vieux, parce que c'est un homme, parce que voilà. Et en fait, avoir un débat avec lui, moi, ça m'a grave aidé à voir comment les gens... réfléchissait et qu'en fait lui il se sent juste attaqué parce que enfin non on lui gueule dessus enfin moi du coup je m'en suis rendu compte mais en fait on prend un peu les vieux pour des cons alors qu'en fait enfin non
ouais mais il y en a plein qui avancent quand même pas hein.
Oui mais non mais ça c'est sûr
mais moi je savais très bien que si je lui disais genre me dis pas ça il le referait quand même.
T'as eu un peu le même exemple avec une de tes profs il y a quelques
semaines. Ouais ma prof de KT là la soixantaine là. Enfin, vous allez pas avancer là-dessus parce que vraiment, j'ai eu genre 4 cours avec elle depuis qu'on a repris totalement en présentiel, nous. Et chaque fois, je sortais de là, mais j'étais remontée à bloc, j'allais me plaindre à tout le monde. J'étais là, non, mais j'en ai marre, elle est là, moi je suis homophobe. Alors qu'il y a genre quelques semaines, j'étais avec une meuf et tout, et on me dit que je suis homophobe, nanana, enfin bref.
Oui, parce que. À un moment donné, après, quand t'as une prof qui finit par dire à ta gamine qu'elle est, elle est homophobe, c'est... Alors bon, ceci dit, on l'a fait remonter, quoi. Non ?
Non, mais elle a dit « je suis homophobe ».
Non, elle m'a dit « mais Lina, est-ce que t'as un problème avec les personnes gays et lesbiennes ?» Non, elle t'a dit à toi. J'étais là. Je lui ai vraiment dit « madame, vous savez pas à qui vous parlez, vous pouvez pas vous permettre de dire ça ». Genre vraiment, parce que...
Ah bah, bien sûr.
Mais pourquoi elle a dit ça ? Parce que, alors, je ne sais pas comment c'est parti. On a eu d'abord un débat sur le mariage et le divorce. Qui est dans la religion quelque chose de très... En fait, elle nous a expliqué, donc c'est de son point de vue, je parle de son point de vue. Elle nous a dit que si tu te mariais à l'église, tu t'engageais entre guillemets à fonder une famille et à avoir des enfants, déjà, de base.
Et ce qui est vrai en soi, dans les textes.
Ce qui est vrai et plausible, mais... elle nous a dit, c'est donc pour ça que le mariage homosexuel n'est pas accepté, parce que tu ne peux pas fonder une famille. Et donc je lui ai dit, madame, les mères porteuses, il y a plein de choses qui existent.
Mais ce qui est vrai aussi, c'est-à-dire que dans leur monde, tu vois...
Oui,
ça aussi,
dans vois que c'est pas possible génétiquement qu'une femme et une femme, ou qu'un homme et un homme font un enfant avec leurs moyens personnels, sans faire appel à quelqu'un d'autre ou à de la médecine. Mais je lui ai dit que, madame, aujourd'hui, c'est totalement normal, et c'est très... très plausible.
Et tu l'as dit de façon cool.
Je lui ai dit, j'étais un peu énervée, mais j'étais quand même entendable et j'étais pas non plus vraiment en colère. C'était le début. Et je lui ai dit, mais madame, il y a plein de choses aujourd'hui, comme les mères porteuses, etc. Elle nous a sorti un exemple du genre, si les parents ils veulent pas de l'enfant, la personne elle doit garder l'enfant. Et donc elle a dit, l'évêque ou le pape ?
Ou le pape.
Les gens qui décident si c'est permis ou pas, ils disent qu'il faut voir tous les revers de la médaille. Donc les gens qui vont se taper l'enfant après alors qu'ils ont déjà pas de moyens, il faut voir ça. Donc je fais ok, très bien, mais c'est pas parce qu'il y a deux parents que c'est des connards qui vont pas accepter leur enfant parce qu'il est handicapé, parce que c'est une fille, parce que c'est un gars et qu'il voulait pas ça, que tout le monde va faire pareil. Et donc elle a commencé à... du coup je lui ai dit, mais madame, vous savez qu'en France, le mariage gay c'est... pas depuis si longtemps que ça, mais c'est accepté. Et
c'est, les gens parlent de plus en plus, etc., etc. Enfin, ça devient de plus en plus médiatisé. C'est quelque chose de plus en plus commun. Enfin, faut évoluer avec son temps.
Et elle a commencé. Et t'as dit ça de façon aussi posée.
Non.
Mais non, mais comment
non,
elle a...
J'étais très, très, très énervée parce qu'en plus, elle...
il y a plein d'autres trucs qui partaient dans tous les sens. Elle s'était remontée contre moi en disant « Mais tu connais rien à l'amour, t'as que 14 ans, t'as pas d'avis à donner là-dessus. »
Oh là là.
Je vous dis ça, mais ça, c'est un mélange de plein de cours. D'accord, c'est plein de
mais
trucs.
Comment, comment elle arrivait au point à te dire que toi, t'étais au
Parce que j'en ai aucune idée. Je n'ai aucun souvenir.
Elle a retourné le truc.
Voilà, je crois que c'était une façon simple de sortir du débat, en fait, tu vois.
Et de me remettre un peu la peau
dessus. Ceci dit, pour expliquer un petit... Enfin, pour me mettre un peu dans ses pompes. Et je crois que c'est ce que Tam me racontait un petit peu aussi. Je crois que c'est cool, à un moment donné, de discuter avec les gens. Et certes, ça t'énerve parce qu'en fait, ils sont en train de dire un truc qui va à l'encontre de tes valeurs et de qui tu es, etc.
Mais elle n'avance pas. Enfin, elle... Même pas, elle nous écoute.
En fait, le truc, c'est qu'on peut pas... Elle peut pas avancer si elles sont attaquées. C'est un
tu vois, mais de base on était très très posés hein.
Ouais bah ouais.
Et on est enfin il y a pas que y a souvent moi et elle parce que j'ai une gueule voilà.
Bah oui bien sûr.
C'est très souvent moi et elle mais il y a plein d'autres gens qui réagissent en disant bah madame moi je suis d'accord avec Lina, je vois pas. Et le pire c'est qu'il y a vraiment des gens qui aiment bien lancer ce sujet-là et quand je les entends dire mais madame du coup le divorce dans la religion catholique et moi je suis là fou loulou je vais pas sortir de ce cours saine et posée.
Mais je trouve ça assez beau quand tout d'un coup, tout le monde décide de baisser les armes et qu'il y a tout d'un coup une écoute possible. Et c'est à ce moment-là souvent qu'il y a des changements d'avis qui peuvent s'opérer.
Après,
mais c'est vrai que parfois, c'est inaudible. T'as envie de
elle baisse pas du tout les armes parce qu'elle dit vraiment vous avez 14 ans, vous avez un avis en carton.
Ça, c'est vraiment le.
Mais c'est l'argument de base pour dire en fait ta gueule, t'es un enfant. Et je suis là, faites pas cours de caté alors si vous voulez pas d'avoir des débats avec des enfants. Enfin.
Non, mais
je sais, vous êtes bénévole et tout, c'est bien, vous servez Dieu, c'est cool, mais le faites pas avec des enfants si c'est ça, genre allez faire des cours de caté à des adultes, enfin, je veux dire.
Tu vois, moi, ce que je me dis dans ce cas-là, je me dis, bah, en fait, c'était une connerie de vous avoir foutu dans cet établissement, quoi.
Ouais, mais non, en même temps, je trouve que ça
forge.
Enfin, ouais, en fait, c'est ça, c'est qu'on s'attend au moins à un minimum de manière de penser différente, quoi.
Ouais.
Enfin, opposée même, très opposée.
Ouais, très opposé.
Ouais,
ça forge énormément. Opposé,
ouais. Mais après, je trouve que quand t'as un débat et que la personne change d'avis, c'est tellement satisfaisant. Ouais. Genre vraiment, c'est trop. Genre en début d'année, tu sais, avec mon prof d'anglais qui avait écrit, il nous donnait plein de feuilles juste pour pouvoir écrire genre must, enfin des trucs vraiment basiques. Bon, déjà, c'était nul. Mm. Et il y avait une phrase, genre, une phrase à trous, et c'était écrit je prends un nom au pif, genre Chloé ne voit pas trop ses amis. Elle est un peu grosse en plus, elle devrait aller faire du sport et manger le moins de chocolat. Et t'es genre, mais c'est pas possible! C'est pas possible! C'est pas possible!
Il y a
possible,
vraiment moyen de choisir vraiment des milliers d'autres phrases.
C'est ça! En plus, c'est lui qui choisit les phrases. Ouais. Et je l'ai appelé et j'ai fait, mais monsieur, c'est pas possible d'écrire ça. Et il comprenait pas. Et il a commencé à s'énerver parce qu'en plus, j'ai dit ça devant toute la classe. Donc forcément, lui, il se sent pas bien et tout. Et je suis genre, non, mais je comprends complètement votre avis. Je dis qu'il y a. Parce qu'il disait, oui, mais aussi, c'est pas très sain d'être gros. Enfin, il y a des trucs où c'est juste, c'est pas bon pour la santé. Je disais, oui, il y a des cas de figure où c'est le cas, mais vous pouvez pas faire ça dans un exercice. Enfin, ça peut être hyper offensant. Et il a fini par comprendre.
Et pendant cette discussion-là ou qui est pris à plusieurs fois?
Non, une fois. Okay. Et une fois et one shot. Et après, à la fin du cours, le cours d'après, je crois que je me suis excusée en disant oui, je suis désolée si j'étais trop agressive ou quoi. En plus, devant toute la classe, c'était pas très malin de ma part.
C'est toujours mieux d'aller voir.
Oui, à la fin du cours, je lui ai dit ça. Il a dit non, mais j'ai enlevé les phrases de mes exercices, je les donnerai plus. Merci parce que c'est ça qui m'aide aussi à avancer en tant que prof. Et ça, c'est vraiment super cool quand. Enfin, tu te sens bien, quoi. Tu te dis, bah, j'ai bien fait de prendre mon temps pour ça parce que c'est
oui,
important.
Parce que là,
quoi.
Par rapport au gars que tu croises pendant une seconde dans la rue,
genre lui,
là,
tu as tapé toute l'année.
Tu vas l'avoir
donc,
toute l'année et ça vaut le coup
autant.
D'investir dans la
et puis,
relation.
Après,
quoi.
Il m'adorait le prof, quoi. Il savait qu'il pouvait compter sur moi pour que je donne un avis qui était honnête. Et pas juste un truc où genre vas-y ce prof il est trop con, c'est un vieux schnock qui comprend rien, je vais pas perdre mon temps avec lui, j'aurais très bien pu faire ça aussi. Mais je l'ai pas fait et je suis assez contente parce que du coup il y aura plus ces phrases de merde dans les prochains exercices.
Elle vous vient d'où cette colère? Tu sais, tout à l'heure, tu disais.
Je pense que c'est comme nous, on est beaucoup sur les réseaux, tout ça, et qu'on est un peu dans une bulle où il n'y a que des gens qui pensent pareil que nous, que des adolescents qui sont très très woke, qui parlent, qui avancent sans cesse, voire parfois c'est trop extrême, mais un autre sujet, qu'on est tellement habitué que quand on voit quelqu'un qui n'est pas d'accord ou qui parle, qui n'est pas d'accord avec nous, ça nous replonge très brusquement dans un truc où on se dit, mais en fait, des gens pas d'accord avec nous, enfin, tout le monde pense pas comme moi, je pense, c'est pas possible. Et du coup, je pense que ça m'énerve vachement quand je vois qu'il y a encore des gens qui pensent. Enfin, pour moi, c'est très vieux, quoi, comme manière de penser. C'est un truc. Non, mais sincèrement, c'est un truc, genre, au bout d'un moment.
À l'échelle de l'humanité, t'as raison.
Non, mais tourne la page, je sais pas, c'est comme la vie antérieure à 11 ans, c'est la même. C'est genre. C'est pas. Enfin. Non, mais je sais pas, au bout d'un moment. Il faut avancer et c'est normal. Et
tu peut-être te rends que même que nous... les femmes avaient pas le droit de vote en 1945
en France. Je sais, et c'est pour ça que nous, sûrement, quand on sera maman, si un jour on est maman, on aura peut-être l'air de vieux schnock aussi, tu vois. Et moi, je suis ravie si quelqu'un m'aide à avancer dans mes trucs. Et d'ailleurs, là, chaque fois que j'ai des débats avec ma mère, c'est insupportable parce qu'elle a toujours raison. Et ça m'insupporte. Mais au moins, j'avance. Au moins, j'avance. Et je pourrais ressortir ses arguments dans un autre débat. Et voilà, c'est pas avoir toujours raison, mais c'est bien d'avoir. J'ai pas du tout répondu à ta question. Non, mais...
si, bah t'as parlé des réseaux sociaux.
Mais oui, c'est ça, c'est que je sais pas, je suis trop habituée.
Les réseaux sociaux, est-ce qu'ils entretiennent un peu justement.
Ouais, c'est ça, ils entretiennent la colère. Moi, de mon point de vue, il y a plein de comptes comme, par exemple, un que moi je suivais beaucoup à un moment, c'est Period Studio. Avec un pont entre les deux, qui a un compte qui fait des illustrations régulièrement pour dire une femme en short qui court et une femme en jean avec un col roulé, c'est la même chose. Et des témoignages, plein de trucs. Et à chaque fois que je vois ça, je suis outrée. Je suis là, genre, en fait, à tout moment, ça m'arrive à moi aussi.
Oui, c'est ça, ouais.
Et quand ça m'arrive à moi, ça peut être sur une seconde, du coup, je sais pas comment réagir. Et en même temps, il y a déjà des mecs qui m'ont arrêté dans la rue et le mec, il regardait un porno et il m'a dit, est-ce que toi aussi tu cries comme ça? Et j'étais là. Et après ça, j'avais peur de sortir, tu vois. Enfin, et pourtant, je suis comme ma mère, elle m'a quand même dit, tu ressors et tu te bouges le cul et tu restes pas dans ta peur et tu t'en sors. Et c'est ça aussi la colère, c'est par tous les mecs qui m'ont regardé. J'en ai marre aussi que ce soit les mecs qui m'ont regardé, qui m'arrêtent, qui me klaxonnent tout.
Mais donc quelque part, ces réseaux-là, enfin ces périodes, etc. Ils sont aussi quelque part aussi en train de refléter ta réalité. Donc tu dis qu'ils te chauffent un petit peu, tu vois, en te titillant. Exactement. Mais c'est aussi quelque part ton vécu.
Je pense que c'est aussi pour en parler parce que c'est des trucs qu'on peut partager facilement. Tu cliques sur deux boutons, c'est dans ta story. Il peut y avoir 200 comme 1000 personnes qui le voient. C'est un moyen rapide de faire passer la manière dont tu penses et la manière dont tu vois les choses.
Ah, donc toi, ce que tu dis, c'est que ça entretient la colère, mais d'une manière saine, parce que ça met des mots sur ton vécu.
Ouais. Faut aussi savoir mettre des pauses et se dire ok. Là,
tu le follows plus par exemple ce compte?
Non, j'ai arrêté moi, parce que je sais que c'est beaucoup et après ça me remonte vraiment. Et après ils font beaucoup de contenu et j'essaye de limiter mon temps sur les réseaux sociaux. Du coup, j'ai limité mes abonnements à 75 personnes pour vraiment avoir le moins de stories à regarder par exemple. Qui est un truc incroyable. Moi, j'ai plein de potes qui font et qui veulent regarder toutes les stories et qui sont abonnés à 200 comptes. Et je suis là, mais tu peux passer 10 heures à regarder juste la vie des gens, c'est pas intéressant. Ouais. Donc, moi, je limite au maximum le nombre de stories à une centaine max d'abonnements. C'est déjà énorme pour moi, je trouve. Après, certains diront que ça fait autant et narcissique de suivre que 100 personnes ou des trucs comme ça.
C'est insupportable. Les gens
ils disent, mais tu te prends pour qui à suivre que 70 personnes? Je suis là.
Alors que t'as nanana d'abonnés. Non, mais parce qu'il y a des gens qui font exprès. Mais parce qu'en fait, il y a des gens qui font exprès d'avoir très très peu de s'abonner à très peu de monde. Genre, j'ai pas votre time. Genre, moi, il y a beaucoup de gens qui s'abonnent à moi parce que moi, je suis un exemple, mais j'ai personne à suivre.
Genre, dans ton lycée?
Non, moi, je suis pas du tout dans cette logique là, mais il y a plein de gens qui peuvent dire ça.
Qui dit ça?
Je sais pas.
Mais je sais que c'est des trucs que j'ai déjà entendus. Elle se croit trop, elle a mis l'abonnement, elle a mis l'abonné, et pourtant elle suit une centaine de personnes. Et j'étais là,
Ouais, mais du coup, sur les réseaux sociaux, il y a ce truc du grand œil là qui vous regarde tout le temps.
Mais clairement, mais c'est fait exprès.
Mais du coup, ça crée quoi chez vous? vous avez encore plus envie de suivre ces règles-là, ou au contraire vous dites non mais là c'est vraiment trop toxique, ça dépend des moments. Je dégage quoi.
Bah ouais, mais en fait il y a de l'addiction, c'est pas
non,
que
justement c'est quoi
c'est quoi
bah, moi moi par exemple qui suis très addict,
ouais,
bah j'ai trouvé un moyen, c'est juste de désinstaller l'appli de temps à autre, et la dernière fois je l'ai désinstallé 4 mois. Et j'étais super heureuse, et j'y suis revenue parce que je devais y revenir pour parler de choses spécifiques avec ma communauté. Et là, je vais redésinstaller. Et moi, pour le coup, je suis pas trop FOMO. Donc en fait,
Fear of missing out, si vous
fear
c'est
of
la peur
missing
de,
out,
peur de manquer. Je ouais. traduis pour les gens qui
Merci.
Qui ont pas parlé.
Non mais du coup, ça, c'est vrai que j'ai pas cette. J'ai des amis qui ont cette angoisse de louper. Des informations ou des événements, etc. Moi,
rien.
Ça
pas du tout.
Ça me touche pas du tout. Donc, en fait, je suis juste super bien. Et quand j'y retourne, j'ai ce temps où je redécouvre plein de choses. Je redécouvre des artistes, je découvre des illustratrices. Mmh. Je vois des infos hyper intéressantes. Je vois des vidéos et des portraits et tout. Et puis, en fait, au bout d'un moment... Alors, déjà, là, sur la reconnexion qui s'est faite il y a un mois, je me rends compte que j'atterris sur des sites marchands, mais systématiquement. Mmh. Et au bout d'un moment, je suis là, non mais attends, je suis en train d'acheter un truc. Ben non, en fait.
Non.
Enfin non, en fait, je n'ai pas acheté. Du coup, je sors du truc. Mais voilà, c'est comme ça que je gère à peu près mon addiction. Mais avant, ça me mettait en colère. Et c'est exactement ce que tu
non,
dis.
Moi
c'est-à-dire
de...
qu'il y a des profils. Je me disais, ah, j'apprends plein de trucs, ça met des mots, etc. Et puis en fait, t'es en colère.
Non, mais ça met des mots, mais je... Ça montre que un côté de la pièce, quoi. En fait, ça montre. Il y a aussi le truc où, quand même, on est dans une époque qui évolue vachement et c'est génial, tu vois. Mais ce genre de compte, ça montre que vraiment le mauvais aspect, le truc où c'est négatif, quoi, tu vois. C'est que des meufs qui se prennent des remarques, c'est que des vieux.
Alors
qu'il y a plein de trucs.
C'est pas parce que tu marches dans la rue avec un décolleté que forcément on va mal te regarder, c'est ça aussi
oui.
le truc.
Mmh. Et puis ça arrive aussi que les gens ils soient gentils, tu vois.
Ouais.
Et en fait, il y a un peu ce truc de perte d'espoir, je trouve, sur les réseaux sociaux où c'est juste. En fait,
tout le monde est un chien, tu vois. Tout le monde est en chaleur et tout le monde est là pour regarder son décolleté. Alors que,
En fait,
il y a des moments où tu deviens parano.
Mais
vraiment, il y a des moments dans la rue où je suis là, mais est-ce que ce mec me suit? Alors que.
Ouais.
Pas du tout.
Ouais,
mais juste vraiment, il était là pour rigoler. En même temps, des fois, il y a vraiment un mec qui me suit et je suis là. Est-ce que j'ai bien fait d'être parano ou pas? Parce que du coup, maintenant, j'ai peur.
Oh.
Et il y a des moments où tu sors et, enfin, moi, je sais que il y a certains hauts que je mettrais pas pour aller à certains endroits.
Oui, bah.
Ouais.
Mais...
Oui, bah.
Mais que ce soit au collège ou genre dans les, si je sais que je vais aller me balader dans la petite rue de Lille, moi, il y a certains trucs que je ne mets plus parce que où je mets un gilet avec. Ouais. Je prends un gilet au cas où.
Ouais, bah non.
Parce qu'il y a des moments où je me sens mal à l'aise. Mais même quand on est passé de l'hiver à l'été, là, c'était quand en vacances d'avril, on est parti genre à Lyon. C'était la première fois que je sortais avec un débardeur qui mettait plutôt ma poitrine en valeur. J'avais pris un gilet, j'ai laissé mon gilet, même si je crevais de chaud. Parce que je me sentais pas du tout à l'aise, parce que j'avais oublié ce regard que les gens avaient sur moi.
Mmh.
Et alors que j'étais dans une ville que je connaissais pas, hein, donc personne me connaissait, je connaissais personne. Et juste, j'étais vraiment extrêmement mal à l'aise.
Wow.
De sortir avec ce haut, et depuis j'ai pas un peu plus de mal de le mettre, mais je prends toujours un gilet avec, même s'il fait 30 degrés là comme aujourd'hui. Enfin bref, pour retourner sur les réseaux sociaux, moi j'essaye de limiter du coup mon temps d'écran avec une 75aine d'abonnements environ, avec surtout des potes.
Ouais.
Et après je limite en général mon temps à pas juste défiler dans ma page ou sur les reels, plutôt à parler, à voir avec les gens, parce que j'ai très peu de... J'ai pas très peu de contact avec les gens hors les réseaux sociaux, mais ça reste un moyen très pratique où tu peux faire des groupes hyper facilement et genre en 3 secondes
sur
Instagram.
Dessus, enfin, c'est
ça, tout le monde est tout le temps dessus, tout le monde te répond en général dans l'heure qui suit. Enfin moi j'ai notamment enlevé mes notifications parce que sinon je
Tu deviens
suis trop dessus en fait. Mais
vous préférez pas WhatsApp ou un truc qui est spécialisé
En fait, il y a très peu de gens qui ont WhatsApp. Moi, mon groupe de classe est sur WhatsApp parce que c'est un peu ma classe de cette année.
Mais les classes, elles sont toujours sur WhatsApp.
Non, pas forcément.
Ah
il y a plein de gens qui ont des classes sur Snap et tout. Et moi, j'étais là. Ah. Non, on a un peu des gens, des intellos qui ont des briques ou le téléphone de leurs parents, tu vois. Du coup, ils ont que WhatsApp. Mais moi, ça me... Enfin, il y a un moment où j'étais là, pourquoi nous on n'a pas un groupe sur Instagram ou Snapchat? Et j'étais là, parce qu'en fait, il n'y a même pas la moitié de la classe qui l'a et qui possède un compte sur ces réseaux. Donc, on a beau dire tout ce qu'on veut. les gens les plus populaires entre guillemets ont un compte sur Instagram et du coup c'est plus facile de parler avec eux. Moi, tous mes potes ont un compte sur Instagram.
Mais en fait, quand je vous entends, j'ai l'impression que les réseaux sociaux c'était un peu comme Jean-Pierre Pernaut sur TF1, quoi. Qui ne parle que de drama et que de et qui entretient
la violence, la peur.
Ouais, jamais de positif.
Pas jamais, mais...
Alors maintenant, apparemment, moi, je regarde plus du tout la télé, mais on m'a dit que maintenant, dans les journaux télévisés, il y avait toujours une séquence...
Et une seule. Non, mais c'est ça aussi, c'est
voilà,
que... L'un des trucs aussi, c'est qu'on parle jamais des trains qui arrivent à l'heure.
Exactement.
Donc, les trucs qui entretiennent le buzz et qui font le buzz, c'est clair, hein, y a plein d'études là-dessus, hein, c'est plus... l'indignation et la colère, que la joie et la gratitude et l'envie de partager, quoi. Ça arrive de temps en temps qu'il y ait des trucs qui buzzent, mais en vrai, c'est plutôt les trucs qui mettent en colère, quoi. Comme tu dis, t'as envie de partager. Est-ce que t'as envie de partager un truc où tu vois, je sais pas, quelqu'un qui aide une mamie à traverser ou je sais pas quoi?
Moi, je fais très attention à ce que je mets maintenant. J'essaie de poster moins de trucs ou quoi que ce soit. Mais aussi au niveau des images que je mets, ou genre, par exemple, quand il y a des gens qui se font violencer dans la rue, etc., ou des animaux, je sais pas d'où ça vient. J'ai pas forcément toujours le courage de me renseigner, du coup, je préfère ne pas partager parce que je sais que.
C'est une bonne idée.
Il y a des trucs qui peuvent être très très mal. Enfin, qui peuvent être juste détournés de leur contexte ou quoi que ce soit. Du coup, je fais très attention, enfin, je fais de plus en plus attention à ce que je partage, donc de moins en moins de publications qui juste débarquent de quelque part et qui font le buzz, genre.
Bonne éducation.
Moi, je fais beaucoup plus attention à ce que je mets.
Bonne éducation aux médias, n'est-ce pas? Je sais pas, même pas pour me lancer des fleurs, mais ça vient d'où?
De toi, tu m'as plusieurs fois dit que ça soit que ça soit des mèmes sur TikTok ou des trucs comme ça, tu m'as toujours dit mais tu sais pas d'où ça vient. Genre il y a plein de mèmes qui viennent de partout et on fait des délires avec Kim parfois et toi t'es là mais vous savez d'où ça vient et nous on est là.
En fait, c'est même pas ça.
Pas cherché.
Je trouve que ça, de ce fait-là, ça incite pas à la curiosité, tu vois. Elle dansait sur un sketch de Mr. V et du Whoop, tu vois. Et elle savait même pas d'où ça venait. Moi, j'entendais le truc, je me disais, mais ça me dit quelque chose, mais je sais plus où, en fait. Et donc, j'ai fait juste une recherche, tu vois, en tapant un des mots qu'elle sortait, tu vois, dans la Corée. Et je leur trouve le sketch. Je leur dis, bah, regardez le sketch en entier, en fait, c'est intéressant, plutôt que juste d'avoir 10 secondes, c'est trop bien. Mais hélas, mais bon, ça peut-être, je suis trop vieux con pour ça, mais j'ai l'impression que ça incite pas à la curiosité, tu vois. Par exemple, elle danse sur des trucs parfois, pour elle, c'est même pas. Elle connaît limite pas la chanteuse derrière ou le chanteur. Elle dit juste une chanson TikTok. Je lui dis, mais non, c'est pas une chanson TikTok.
Bah, si. En
fait, oui, mais si tu veux, mais avant d'être une chanson TikTok, c'est quand même quelqu'un qui s'est fait chier à écrire et à. Et à produire ce titre-là, quoi, tu vois.
Bah, disons que, ouais, les temps longs, c'est... Je sais plus qui, la dernière fois, qui me disait qu'elle écoutait pas les chansons en entier, maintenant. Elle écoute 15 secondes de chaque chanson, et puis elle passe à la suite, à la suite, à la suite. Hyper bizarre.
Mais c'est fou, hein. Mais ça, je crois, tu vois, c'est qu'on est en train de tourner vieux, quand,
ouais,
tu
ouais.
vois.
Ouais, c'est possible, ouais.
Moi, mais ça me choque pas plus que. Enfin,
bah, voilà, tu vois.
Ah ouais. Bah, y a juste un passage que tu préfères.
Ouais,
quoi.
C'est ça. Genre.
Mais.
Mais ça, mais moi, on se regarde avec des yeux. Mais genre.
En fait, surtout ce qui est de TikTok, comme c'est vraiment des sélections de parties de musique qui sont 15 secondes, tu connais souvent le truc de TikTok. Et puis, si tu vas écouter la musique, soit tu kiffes toute la musique et tant mieux, soit en fait, souvent, comme il y a des chorés, enfin après, moi, je suis pas trop là-dessus, mais comme il y a des chorés, bah, tu prend la partie où il y a la Corée, quoi. Quand
non,
surtout,
Et même des fois, il y a juste des moments où la musique est totalement différente et il y a 15 secondes de différence avec tout le move et l'ambiance de la musique. Et du coup, t'as juste 15 secondes qui te plaisent vraiment et qui te rappellent genre des souvenirs ou des trucs comme ça aussi.
Ah ça, oui, ça, mais
ça peut être n'importe quoi. Mais
je sais même pas vraiment. Ça me sidère. Après, tu peux avoir dans un film un moment préféré, tu vois, une scène préférée que t'as envie de regarder, tu vois, ça je comprends. Mais en fait, une musique, ça dure 3 minutes, quoi, tu vois, enfin 4.
Mais... Ouais, mais il y a quand même des musiques où vraiment y a la vibe change d'une seconde à l'autre.
Bah écoute, j'ai juste envie de dire, bah pourquoi pas, donc j'ai envie de dire à Justin Bieber, lance-toi dans des albums de 15 secondes, quoi, tu vois, après tout, ça ira plus vite, hein, plutôt que de t'emmerder.
Mais pourquoi pas, ça se trouve,
c'est peut-être ça.
Il va y avoir des productions musicales de 15 secondes. Hein.
Alors que moi, je suis en train de faire des podcasts de 1h10, tu vois. Conneries, hein, vraiment.
Ben non, au contraire, je pense qu'il faut aussi des temps longs et aussi des
temps... Moi, j'adore de temps en temps écouter des musiques qui font genre 15 minutes. Ouais. C'est trop bien.
Ouais, des nappes, ouais.
Trop, trop bien.
Ok. Il faut que vous y alliez, non?
Nous, on doit partir à 17h20, ouais.
Ok.
Bye.
Bye. quoi?
Ah, il reste du temps, là.
Ouais.
Ouais, il reste encore un peu de temps. T'as des choses à dire.
Tam, t'es à fond.
T'as des choses à dire.
Mais en fait, moi j'aimerais bien... avant, une fois que je suis lancée, c'est je trace.
Moi, j'aimerais bien qu'on parle quand même d'un truc dont on a parlé au début avec toi. Et là, dont on parle avec les réseaux sociaux. Mais moi, je suis hallucinée sur... c'est peut-être spécifique à vous deux, mais sur le niveau, votre niveau de connaissance
vocabulaire.
En psychologie.
Ouais, ouais.
Ah, non, mais la dernière fois, t'as me fait une blague en disant t'as des petits problèmes de anger issues ou je sais pas quoi.
Bah, je sais pas, pour moi. C'est...
Et en fait, c'est, bah, ça fait partie de ton vocabulaire. Ouais. Et de... Ouais.
Tu l'as pas juste dit, t'as 15 ans ta gueule, quoi. Toi.
Tu non, parce qu'elle avait raison.
Oui.
Donc,
pour une fois.
Mais non, mais non, souvent, t'as raison. Mais je suis
par rapport à notre par rapport à notre génération, c'est ouf le incroyable. 30 ans d'écart.
Non mais même en fait, il y a du vocabulaire qui est inventé aussi, c'est genre.
Alors, il y a du vocabulaire qui est inventé, vous êtes en plus dans une génération woke où tu vois, ils sont tous un peu sociologues quoi. Il y a un concept sur chaque chose, chaque comportement. Donc je pense que parfois c'est un peu extrême, mais parfois c'est ça tellement
évite,
éclairant.
Ça évite de vivre parfois, j'ai l'impression un peu ce truc, tu vois. Parce que tu finis par plaquer des concepts. De...
Oui, non, mais c'est clairement.
Par rapport à la vie, à un moment donné, qui est bien
tout
aussi.
Tout met
parfois.
Dans des cases. Et...
Voilà.
Ouais. Mais,
tu voulais en venir où, Maï?
Mais non, mais je voudrais juste en venir sur le fait que je les trouve très évolués. Très, 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 très évolués. Donc parfois, ça développe aussi une complexité. Parce que vous arrivez peut-être plus vite ou trop vite ou je sais pas à des moments qui nous sont arrivés à 30 ans, 35 ans,
40, 60
mais du coup ou jamais. Du coup peut-être avec des cerveaux ou des tu vois juste un système nerveux qui est plus évolué, tu vois, juste biologiquement. Donc tu vois, j'arrive pas à savoir si c'est bien, si c'est pas bien, je sais même pas s'il faut répondre à cette question, mais je suis parfois émerveillée par le niveau en fait.
Mais je pense que c'est les réseaux sociaux aussi. Ça.
Mais ça, je pense que c'est quand même.
C'est pas que les réseaux sociaux, mais ça en fait. Ça
joue beaucoup.
C'est Internet, si je puis me permettre. Ouais. Parce que, en fait, les réseaux sociaux.
En fait, moi, je vais jamais sur Internet.
Non, mais donc, c'est pour ça que. Laisse-moi dire mon point. Mais en gros, Internet existe depuis. Moi, j'ai découvert Internet en 98, d'accord ? Donc, il y a très longtemps. C'était au tout début d'Internet. Et en gros, j'avais 17 ans. Ok ? Avant ça, moi, mon monde, il se réduisait à mes parents, mes profs, mes potes. Et c'est tout, tu vois.
Et le des livres ?
Bah, mes potes de basket, tu vois. Et des livres. Mais en fait, j'aimais pas trop lire. Si, je lisais des comics, tu vois. Mais c'était bien, ça m'ouvrait une forme d'imagination. Ceci dit, dans les comics et dans les bouquins, d'une manière... En plus, les bouquins, si t'as pas quelqu'un qui vient à un moment donné te dire « Tiens, en fait, essaie de lire ça, tu vas voir, c'est cool », bah c'est dur si t'as pas Internet, tu vois. Aujourd'hui, avec Internet, tu veux lire n'importe quoi.
Et t'as un avis sur tout
le temps. Tu peux aller chercher des reviews ou tu peux juste suivre des Insta-bookeuses ou des YouTube, je sais plus, des booktubeuses, tu vois, qui vont te filer des, ou des booktubeurs, qui vont te filer des recos, quoi, tu vois. Et toi, tu dis, ah, ok, ça m'intéresse. Ouais. À l'époque, ça existait app du tout, ça n'en avait pas. Et moi, quand j'ai découvert Internet, je me souviens très bien que j'ai découvert l'ancêtre du chat et tout aujourd'hui. On a ce qu'on appelait IRC à l'époque. Et en fait, je suis tombé dans un salon américain. J'ai tapé, j'aimerais bien parler avec des gens de New York, quoi, tu vois. Et donc, je suis allé dans un salon New York. Et dans ma vie, à un moment donné, je me disais, je peux parler avec des gens qui sont à l'autre bout du monde, mais ça m'a tordu la gueule. Vraiment, je me suis dit, waouh!
En fait,
le monde s'ouvre.
Du tout. On
bien
pas
sûr.
Du tout. Et
c'est pour ça que je me suis permis de te dire, c'était avant les réseaux sociaux, parce qu'en fait, pour moi, Internet, c'est juste ça. Si vous avez sans Internet, vous n'avez pas de réseaux sociaux. Bien sûr, j'entends. Si sans Internet, vous n'auriez pas de réseaux sociaux. Sans le réseau de l'Internet, n'est-ce pas? Et avant les réseaux sociaux, il y avait déjà la possibilité de faire ça, et notamment par rapport à un truc que j'ai trouvé génial, qui s'appelle les forums, et que je trouve très triste d'ailleurs que votre. L'instant vieux con, désolé. En fait, je trouve assez triste que votre génération ait laissé tomber cet outil, parce que pour moi, on n'a pas inventé mieux pour discuter. Tu vois, je sais pas si vous voyez... Est-ce que vous voyez ce que c'est un forum, en plus ? Ok.
Oui, mais après, moi c'est surtout grâce à Mad.
Forum,
hein.
Mais
c'est un outil où tu peux poster un truc Et après, en fait, tu as un système de discussion qui est fait. Bah, par exemple, si tu essaies d'avoir un débat sur Insta, aujourd'hui, c'est impossible à suivre.
Ouais. Impossible.
Ça part dans tous les sens, les gens ne se répondent pas, machin, tout ça, c'est un bordel. Là, le forum, il est vraiment structuré pour. Bah, tu as un message, tu montres le message, tu dis ça, j'ai envie de répondre, il te cite avant le message, comme ça, tu vois à quoi tu réponds, etc., etc. Et surtout, c'est dans un temps long. C'est-à-dire que tu peux avoir des discussions qui peuvent durer sur. Bah, il y avait des topics sur Mademoiselle qui pouvaient durer depuis 10 piges, tu vois, où les gens, ils viennent apporter des trucs et les discussions évoluent au fil du temps, etc. Ce qui est impossible à faire sur Insta. Parce qu'en fait, ton post d'hier, demain, il va être remplacé par un nouveau post, quoi, tu vois, avec un nouveau fil de commentaires. Et je trouve que les réseaux sociaux, c'est très descendant, en fait, tu vois. Alors, ou alors, c'est en one-to-one. Ou alors, vous avez des groupes. Mais c'est pas pareil.
Mais en fait, tu discutes pas trop sur les réseaux sociaux. Mmh. En fait, tu vois comment on dit
un post.
Un post, ou voilà. Et tu réfléchis seul, en fait. C'est quelqu'un qui parle, et toi, tu réfléchis. Mais les débats, tu les as en face, avec des gens, mais tu les as pas par écrit, en fait, très peu. Mais de toute façon, c'est souvent, ça part en couille, les débats par écrit, parce que, comme t'as pas... Non, mais ça,
ouais, t'as pas le grain de, ouais, de voix, ça, mais ouais, toi-même, tu dis, c'est beaucoup mieux de s'embrouiller en appel et de s'expliquer
mais
en appel.
Clairement, clairement.
Que t'as pas le grain, t'as pas le...
Horreur, les SMS. Mais clairement. C'est pour ça que, ouais, je vois.
Mais c'est aussi une forme, enfin c'est aussi un apprentissage, tu vois. Quand tu viens sur un forum, t'apprends aussi à communiquer à l'écrit et à venir poser tes phrases en disant, en venant pas dire, mais toi t'es qu'un con si t'es, parce que là tout de suite ça s'enflamme, quoi, tu vois. Et ça aide aussi, je trouve, à structurer vachement l'esprit, à venir dire, tu vois, moi de mon point de vue, je trouve, en plus ça aide à, je le savais pas à l'époque, mais à la communication non violente, à juste recentrer le truc sur toi. Mais ça, je m'en rendais pas compte. Et c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a un peu, enfin il y a moins de ça. Sur Insta, effectivement, ça vous ouvre à plein de choses, les réseaux sociaux, ça vous ouvre à plein de concepts,
mais pas au débat.
Mais ça vous empêche de communiquer
entre vous.
Non, mais
pas au débat, c'est sûr. Pas au débat, ça nous renferme sur notre vision des choses, et après, en fait, on est incapable d'avoir une discussion parce que on prend l'autre pour un con, quoi. Mais que tu sois de mon avis ou que tu sois de l'avis opposé ou d'un autre avis, c'est moi qui vais être la conne, en fait. C'est juste qu'on se dit qu'on est vraiment ceux qui ont raison, quoi, et les gens ne sont pas capables de parler. Ou même si tu t'entends pas avec quelqu'un, tu vas te dire bah, on n'est pas fait pour être pote, alors qu'en soi tu peux très bien être pote avec quelqu'un et avoir des avis différents sur des aspects. Mais moi j'ai un peu du mal à être pote parfois avec des gens tu vois, qui disent des trucs avec lesquels je suis pas d'accord, j'ai tendance à m'éloigner d'eux, alors qu'en soi...
Mais ça dépend. Après, si c'est dans toutes les discussions que ça revient tout le temps, c'est chiant.
Oui, non, c'est sûr.
Mais si c'est une fois de temps en temps, tu vois.
Non, mais moi-même, à mon âge, quand j'avais 15 ou 20 ans, j'avais des copines qui pouvaient pas être potes avec des gens de droite. Donc, ça a toujours existé. Ça, c'est peut-être inhérent aussi à votre âge.
Mais c'est aussi d'être parce plus que c'est anti des valeurs profondes.
Ouais, bah bien sûr. Bah, là, quand Tam parle de valeurs, c'est des valeurs profondes sur le racisme. Sur est-ce que tu peux être pote avec quelqu'un de raciste? Je sais pas, tu vois.
C'est extrême. Moi, je parle pas forcément de ces cas. Je parle de trucs plus léger.
Mais tu pourrais être pote avec quelqu'un de raciste, en fait, tu vois. De se dire. Non, mais.
Je crois pas, non. Bah, en fait, si je le remarque pas, du coup, je le sais pas.
Voilà. Non, mais vous avez jamais ce genre de discussion.
Oui, non, mais c'est vrai. C'est pour ça qu'avec plein de potes,
puis,
on a souvent.
Quelqu'un peut être raciste aussi parce que, il l'a jamais vraiment connu, tu vois. Et à ce moment-là, c'est plutôt, je crois, à toi de te dire, est-ce que j'ai envie de garder cette personne dans ma vie? Et dans ce cas-là, peut-être lui expliquer, est-ce qu'elle est capable de t'entendre ou pas, quoi, tu vois.
Non, mais en fait, ce que
plutôt
je trouve.
Donc de
génial,
dire, ok, t'es raciste, ça dégage!
Ouais, mais ça, c'est sûr, mais c'est ce qui est bien aussi, c'est que, je trouve que, enfin, moi, avec mes potes, on peut se poser des questions sans, avoir honte, enfin par exemple si on a un sujet on connaît pas trop, on dit excuse-moi, est-ce que tu peux m'expliquer un peu, par exemple sur des trucs racistes ou même là tout ce qui est la non-binarité, tout ça, des trucs un peu sensibles parce que
non-binarité les
des sujets sensibles parce que comme c'est très nouveau, c'est un truc vraiment, moi j'ai plein de potes qui me disent je comprends pas trop they/them, c'est un, enfin souvent les gens ils disent they/them c'est un pronom pluriel, ça peut pas être utilisé.
Est-ce que tu peux m'expliquer Il faut que j'explique aux gens la non binarité.
C'est des gens qui arrivent pas à se définir dans un genre et qui arrivent pas à se mettre dans une case, que ce soit sexuel ou dans un genre, dans le genre.
C'est pas sexuel non binaire.
C'est ton identité de genre.
T'es ni homme.
Mais moi je connais plein de trans et plein de non binaires. Enfin je veux dire dans mon collège c'est plutôt commun, quoi.
Voilà.
Bah ouais, c'est ça, en fait.
2021, je veux dire.
Ouais, mais même plein de gens qui sont soit gays, soit pan, tout le monde. Les gens, en fait, aujourd'hui, arrivent à poser
soit
des
pan,
mots.
Soit pansexuel.
Pansexuel, pardon.
C'est quoi pansexuel pour les gens
pansexuel, c'est des gens qui sont attirés par le caractère de la personne et pas son genre.
Par la personne.
Ouais, oui, c'est ça. Mais je connais plein de gens qui se revendiquent
aimer à la fois des filles, des garçons et des personnes
des garçons cis,
des personnes trans aussi.
Exactement. Mais en fait, normalement, les personnes trans sont... En fait, quand tu dis que t'es hétéro, normalement, tu comptes aussi les femmes trans. Il n'y a pas de... Tu peux pas dire... Parce qu'il y a eu un truc récemment...
Quand tu dis que t'es hétéro, tu comptes aussi les femmes trans.
Bah, en fait, oui, parce que tu peux pas... Il y a eu un truc, un drama de ouf, parce que il y a des gens qui disaient je suis genre super hétéro. Je sais pas si t'avais vu ou pas. Ils disaient genre je suis hétéro plus, un truc comme ça, et ça voulait dire je suis hétéro, mais uniquement pour les vraies femmes, entre guillemets, donc les femmes cisgenres, ce qui est, enfin, ce qui n'a aucun sens, parce que pour moi, enfin, pour moi, quand t'es une femme trans, t'es une femme.
Ouais.
Et du coup, si t'es un homme hétéro, tu comptes aussi les femmes trans et.
Mais après, voilà, t'as le droit en tant
mais
que
tu peux avoir des
que mec hétéro de dire...
Mais tu peux, non, mais tu peux avoir voilà. des préférences, mais tu peux pas inventer une sexualité en mode « je suis hétéro plus ».
Ah oui, hétéro plus.
Mais ça, c'est juste... Enfin, tu vois, il y a... Ouais.
Mais c'est un peu le problème de toujours se définir dans des cases.
Oui, c'est
ça, donné...
que du coup, tu peux pas avoir autant de cases que non, le vivant, puisque le vivant, il déborde de partout, quoi. Donc, il y a des moments où c'est nécessaire d'un point de vue politique, parce que, parce que il faut qu'on puisse... On n'a pas les mêmes stigmates... si on est lesbienne, trans, et on n'a pas les mêmes choses à revendiquer, parce qu'on n'a pas les mêmes stigmates. Mais après, dans le vivant, c'est pas nécessaire toujours de devoir se poser dans une case, parce que, enfin, si justement tu penses que les choses sont fluides, bah, une chose peut être une chose à un moment, puis une autre à un autre moment, puis une autre à un autre moment.
Puis les choses évoluent dans la vie.
Exactement.
Enfin, tu peux passer de femme à homme ou re-femme, enfin. Il y a plein de gens qui
gender
ont des
fluid,
phases.
Ça
non, mais même pas forcément. Juste, il y a un moment où... Je sais pas comment dire... Enfin, je sais plus avec qui j'en avais parlé, mais... Il y avait un... devait avoir un pote qui, de base, était un homme qui est né homme, qui a fini par se sentir plus femme, puis qui est redevenu homme et qui a passé le reste de sa vie en homme, qui a juste eu une phase où il se cherchait et il savait pas trop où aller. Du coup, bah... Il a, entre guillemets,
et essayé. Il a fait la transition ou pas
enfin, non, il me semble pas. Non,
je
juste il a changé de prénom, il a changé de prénom et
oui,
mais c'était le début de sa transition quoi. Puis après, il s'est dit en fait non, je suis plus un homme.
Bah, t'as le droit de faire ça.
Bah oui. Mais...
Et après, c'était pas obligé de. Enfin, pour moi, l'important c'est juste de vivre, tu vois. Et effectivement, t'as le droit d'être hétéro et de te dire bah moi, les femmes trans, ça m'intéresse pas. Est-ce que pour autant, t'es obligé de te coller une étiquette Tout comme tu pourrais te dire bah moi, les femmes brunes, ça m'intéresse pas, quoi. Tu vois,
oui. Et, non, mais c'est l'étiquette
bizarre.
L'étiquette en fait devient une violence parce que elle dit elle est exclusive en fait.
Bien
elle
sûr.
Exclut une partie des gens alors que en fait on a tous des préférences.
Ouais,
et
mais
on est pas
je trouve ça bizarre
de...
comme préférence. Enfin, je sais pas pourquoi, mais moi c'est pour moi c'est
oui,
un peu un struggle.
Toi, mais...
de, enfin, tu vois, pour moi dire genre je préfère les femmes brunes, ok, mais dire je peux.
Bah c'est pareil,
je suis hétéro.
Ça reste la même chose.
Oui, je sais, mais je sais pas, moi ça me. Peut-être sais, parce que j'ai.
Parce
ça,
que femme brune, on l'entend plus que. Je préfère
ouais, mais
une,
pour
une
moi,
femme
dire je préfère une femme cis qu'une femme trans, c'est bizarre, quoi. Enfin, pour moi, c'est.
Bah,
c'est
parce
créer
que c'est...
une différence, je sais pas. Enfin,
oui, mais
alors ça, que, oui,
c'est peut-être un vécu différent, c'est peut-être.
Oui, c'est vrai, mais je sais pas.
C'est peut-être aussi une anatomie différente dans leur esprit. Mais tu vois, quand j'ai filmé Mariko, qui est la première femme trans. Élue maire de France, elle me disait mais il y a aussi plein de trans lovers, de d'hommes qui adorent les femmes trans. Donc c'est juste des préférences, on n'a pas besoin de mettre des étiquettes et voilà
c'est la vie.
Voilà c'est la vie.
C'est
en
la
fait.
Vie.
Ouais.
Tu sais sur Tinder et sur OkCupid, t'as des meufs qui disent moi je veux pas de mec en dessous d'1m75. Plein. Et pourtant elles font pas 1m95 quoi, tu vois. C'est juste elles font 1m60 mais elles se disent moi j'ai besoin d'avoir un mec plus grand, tu vois. Et c'est tout un bail parce que tu te dis mais d'où ça vient aussi.
Ouais.
Et toi en fait si tu viens le prendre pour toi à un moment donné parce que tu fais t'es un mec et que tu fais en dessous d'1m75, c'est super dur je crois en tant que mec, mais faut pas le prendre pour toi, faut juste te dire bah c'est sa préférence à elle. Il y a des meufs qui disent moi je veux pas d'homme chauve, systématiquement je les like. Je suis un connard. On va voir ce que ça donne. Peut-être on match et à ce moment-là on va avoir une discussion intéressante. J'ai même hésité à faire un profil avec que ma tête quand j'avais des cheveux, tu sais, à l'époque.
Ouais,
et puis
sûr.
Après faire surprise. Tu vois, finalement, c'est pas si mal. Non, mais non, c'est terrible. Ne faites pas ça, c'est une connerie. Je suis un connard. Il est 17h20.
Ouais.
C'est l'heure d'y aller.
Ouais.
Et puis surtout, ça fait 1h25
ouais.
qu'on parle. Hein,
bah ouais,
c'était ça intéressant. Fait, hein.
Ça
vous a plu?
C'était ouais, trop bien.
C'est trop c'est bien. Vrai,
j'adore, ce ouais. disque... j'adore les disques qui sautent comme ça. Ouais.
J'adore.
Bon, bah trop cool. Hein. Bah, merci beaucoup, les
bah,
filles.
Merci beaucoup. Merci
c'était trop
merci
bien comme discussion.
Beaucoup, Lina,
on fera ça. Hein.
Bah grave, si
ouais, épisode de ouf.
De ouf.
De ouf.
De ouf.
Mais quand
grave,
tu veux.
Grave de ouf.
Grave quand tu veux, d'accord, de ouf.
C'est carré, c'est carré.
C'est carré dans l'axe.
C'est carré dans l'axe.
Alors moi, j'aimerais juste ajouter un petit truc.
Oui.
Quand même.
Mais non.
Mais,
hein. N'oublie pas de parler de
ça y est, on va repartir sur une demi-heure.
Non, mais excusez-moi, mais il y a un truc quand même qui m'a beaucoup surprise et qui... c'est... qu'il y a beaucoup d'ados, voilà, la solitude dont vous parliez tout mm-hmm. à l'heure. Je pense que c'est un truc que tous les ados traversent. Enfin, mais vous aviez en même temps, vous savez en même temps que vous avez des parents sur lesquels vous ah, pouvez oui. compter. Il y a des boutons sur lesquels vous pouvez appuyer ou
des amis,
ou,
des amis,
ou même un système, tu vois, de de psy, de d'hôpital. Enfin, il y a un système, tu vois, il y a un tamis quoi. Et il y a des ados qui le savent pas. Mm. Et il y a vraiment des ados qui pensent qu'ils sont totalement seuls, alors qu'il y a plein de mains qui peuvent se tendre. Et il y a des parents qui ont peur aussi. Il y a vachement de parents qui ont peur de leurs ados. Et évidemment que c'est pas le meilleur moment pour créer un lien avec ton enfant, parce que en général, c'est que ça fait longtemps que voilà. Mais en fait, il y a plein de mains tendues aussi à cet endroit-là, de que ce soit des liens, enfin des mains professionnelles, tu vois, de gens qui font des thérapies familiales, ou mais aussi voilà, dans l'entourage amical. Il y a vachement de honte autour de la parentalité et autour de l'adolescence, et on peut aider quoi, voilà.
Bah après, moi je vais rebondir là-dessus parce que c'est vraiment un
on
truc
vraiment
très très récent.
Minutes,
non, non, t'inquiète, c'est un truc très très récent pour moi.
C'est un super sujet, c'est vrai que j'aurais
bien entendu. Même si tu sais qu'il y a des parents, des gens qui sont là, tu t'en rends pas forcément compte.
Bien sûr.
Il y a quand même des moments où, même si maman elle était là et elle disait t'es sûre tout va bien et tout, j'étais là, bah non, ça va pas trop, ou des trucs comme ça. Et je savais hein, que si j'avais besoin, je pouvais aller pleurer dans ses bras. Ou que je pouvais appeler telle ou telle personne, je m'en rendais pas compte sur le moment. Mmh. Enfin, c'est seulement après genre quelques semaines, voire quelques mois, où j'ai vraiment pu me dire ah oui, en fait, j'ai vraiment des amis, en fait. J'ai encore... j'ai possibilité de recréer une vie sociale, qui est un truc que je suis en train de reprendre vraiment maintenant, que j'avais totalement arrêté depuis genre mi-février. Je suis en train de commencer à ressortir et tout, et je me redécouvre des potes que j'avais oubliés, en fait, parce que...
L'adolescence.
L'adolescence, c'était un moment où je voulais pas non plus faire souffrir les autres parce que moi j'allais mal, ou des trucs comme ça, parce que j'ai vu que le fait d'aller mal a énormément impacté tout le monde de la famille, particulièrement maman, j'ai l'impression.
Bah, j'aimerais bien que t'en parles avec elle, parce que je suis pas si sûre, en vrai.
Bah moi j'ai eu l'impression que ça a particulièrement bien secoué.
Bah, ce que disait Maï tout à l'heure, c'est qu'en fait c'est très dur de voir ton enfant qui est mal et de pas réussir à l'aider, mais en fait, fondamentalement, c'est un truc qui te fait grandir toi aussi en tant que parent.
Oui.
Tu vois. Donc, je suis pas si sûr que ça, que ta mère est... Alors, elle l'a sans doute mal vécu sur le moment parce qu'elle se sentait un peu... Et ça aussi, c'est son travail à elle, à faire sur elle de... Bah, il y a un moment donné où il faut laisser ton enfant être pas bien. Mais c'est dur. C'est très dur à faire. Mais je suis pas sûr, avec le recul, tu vois, qu'elle se dise « Putain, j'étais vraiment au fond du seau, quoi. »
Non, je suis pas sûr.
Mais j'ai une question.
Oui.
J'ai une question. Est-ce que t'as des potes qui t'ont dit qu'ils s'inquiétaient pour toi ou pas ?
Oui.
Mais genre, enfin, comment tu l'as pris ?
Ça dépendait de qui et de comment j'étais proche. J'ai des potes qui sont déjà passés par des trucs très similaires à ce que moi, par ce dont je suis passée. Pas jusqu'en hôpital. J'ai aucun pote qui allait jusqu'en hôpital. D'ailleurs, j'ai réussi à faire en sorte que ça s'ébruite pas trop, que ça reste dans un cercle d'amis très proches. Oui, j'ai énormément de potes qui se sont inquiétés pour moi, beaucoup.
Mais toi, tu te sentais genre coupable ? Tu te sentais comment, genre, quand
ils... Ouais, il y a certains moments où je me sentais coupable et je me disais pourquoi je leur fais... Enfin, pourquoi vous êtes encore potes avec moi, quoi ? Je suis dans la merde et vous êtes quand même là. Enfin, qu'est-ce qui vous retient ? Enfin, je veux dire, je sors plus... j'avais plus de piment, tu vois, dans ma joie de vivre. Bah, elle était plus vraiment là. J'allais en cours la journée, j'avais pas envie d'y aller, je faisais la gueule la plupart de la journée. J'essayais quand même hein, de trouver le positif et de profiter des petits moments, mais c'était toujours un énorme effort.
Et est-ce que t'étais contente ou pas que tes potes ils te partagent un peu leur expérience genre par rapport à ce que toi tu vivais? Enfin genre comment ils se sentaient? En gros, est-ce que t'as des potes qui t'ont dit bah voilà, moi ça me rend hyper triste de te voir comme ça?
Ouais, ou, j'ai plein de potes qui m'ont dit je suis perdue, je sais pas quoi faire pour t'aider. Je veux t'aider mais
genre,
je sais pas comment.
Je suis hyper en colère ou je sais pas, des trucs comme ça et genre...
Non, est-ce pas que forcément t'étais... en colère.
Est-ce que t'étais grateful genre qu'ils partagent leur expérience par rapport à...
Ouais, de ouf. Okay. Mais c'est pas arrivé beaucoup. Enfin... Okay.
Tu veux dire que t'aurais aimé plus de témoignages?
Non, pas forcément, parce que pour moi, tu te rends compte tout seul qu'en fait, il y a des gens autour de toi. Si tu veux vraiment sortir de là, si tu veux sortir de ton trou, c'est des escaliers à gravir. Donc tu montes chaque marche au fur et à mesure du temps. Et je m'en suis rendu compte toute seule que je pouvais appeler des gens au milieu de la nuit, que ça allait déranger personne, en fait, que j'avais le droit d'aller pas bien, que... Ça arrivait à tout le monde d'avoir un moment où tu vas pas bien. Et moi, pour l'hôpital, c'est ma psy qui m'a dit que c'était possible et que c'était envisageable. Mmh. Parce qu'avant, je savais pas du tout. Pour moi, une semaine à Paris, c'était ma solution. Mmh. Parce que j'ai passé une semaine ici. Ouais, non, moi, c'est ma psy qui m'avait parlé de tout ça. Donc j'avoue que si j'avais pas eu cette psy-là à ce moment-là, je sais pas trop ce que j'aurais fait et où j'en serais aujourd'hui. Donc, mais pour retourner sur mes potes, ouais, il y a des moments où vraiment ça me touchait et j'en avais besoin, et d'autres où je savais pas du tout comment le prendre et je disais merci, mais j'arrivais pas à l'intégrer. Que même si on me le disait, j'avais l'impression que c'était du vent et que c'était des paroles en l'air. Et j'ai quand même des potes qui m'ont appelé tous les soirs quand j'étais en hôpital, j'ai une de mes potes particulièrement qui a été là pour moi tout du long, c'est la première à qui je l'ai dit. Elle m'appelait tous les soirs quand j'étais à l'hôpital, elle a pris mes devoirs tous les jours, toute l'année quand j'étais pas là, elle a pris mes devoirs. Elle a tout le temps pris de mes nouvelles quand elle pouvait, etc. Enfin, c'est vraiment une personne qui a été là pour moi tout le temps et qui est passée par elle l'année dernière, mais elle en parlait moins. Et j'ai d'ailleurs appris très récemment que je l'avais beaucoup aidée sur ce point-là, alors que je n'étais pas du tout au courant.
C'est cool, hein.
Mais vraiment, elle m'a dit, en fait, je suis en train de te rendre ce que tu m'as donné moi l'année dernière, et j'étais là, waouh, mais je pensais pas que c'était à ce point-là que t'allais aussi mal, parce qu'elle en parlait très très peu.
Okay.
Que moi, j'avais beaucoup moins de mal à dire que j'allais pas bien. Même si à certaines personnes, je disais par automatisme, ouais, ça va, hein. Alors que je rentrais chez moi, j'étais pas bien du tout. Mais non, après, c'est les montagnes russes, ce genre de période. Ça peut aller très bien, comme juste tu peux endormir ton cerveau et du coup d'un seul coup ça va beaucoup mieux. Et après, une semaine après, tu retombes et t'as plus envie de rien faire et ton lit c'est ton meilleur ami et t'as juste envie de te perdre dans ton téléphone ou dans une série pour ne plus penser et t'endormir devant ce genre de choses pour pas réfléchir parce que ça te fait peur de te retrouver avec toi-même. Moi j'ai eu peur de moi pendant un bon moment. Hein.
T'as eu peur de toi?
J'ai eu peur de moi et j'ai eu peur de me retrouver seule avec ma tête. Parce que ce que je pensais me faisait peur.
Mais t'en es sortie.
Et j'en suis sortie.
Ma grande fille.
Bien sûr.
Incroyable. Mais c'est trop beau.
T'as un sourire un peu béat.
Non, mais je pose ces questions parce que j'ai pas mal de potes qui sont dans ce que tu étais.
Mm-hmm.
C'est dur.
Et je trouve qu'en tant que pote, c'est dur de...
Mon truc qui s'est barré.
C'est dur de réagir. Enfin, tu sais pas.
Tu sais pas trop comment.
Ouais,
quoi
tu
faire.
Sais pas comment réagir, tu sais pas ce qui les aiderait. Mais... Enfin, tu sais pas trop où est ta place, quoi.
C'est ça. Tu sais pas s'il faut leur proposer de sortir ou s'il faut juste les relancer chez eux pour regarder un film avec eux.
Et puis souvent, toi, ça te fait du mal aussi. Et tu sais pas si tu devrais leur dire, tu vois. Si ça les mettrait encore plus dans la merde.
Je pense que ça les mettrait encore plus dans la merde de savoir que ça te met mal. Parce qu'ils culpabiliseraient après d'une manière ou d'une autre de te rendre mal. En tout cas, moi, il y a des moments où c'était vraiment le cas où j'étais là, genre. Ah oui, donc elle est en train de pleurer pour moi devant moi. Ça veut dire que ça a un bon impact sur sa vie et que je suis possiblement en train de la rendre triste.
Mais d'un autre côté, en fait, je trouve que tout le monde fait preuve de vulnérabilité, tu vois, à ce moment-là, et qu'en fait, toi, t'es en train de dire que tu vas vraiment pas bien et qu'en fait, t'as besoin d'aide, parce qu'en fait, tu disais que t'avais parfois pas envie de les appeler pour pas les emmerder, et qu'elle, de leur côté. Elle faisait aussi ce move-là de vulnérabilité vis-à-vis de toi, de venir dire bah, tu vois, en fait, je veux bien t'aider autant que tu veux parce qu'en fait, t'es mon ami, mais quand je te vois comme ça, eh ben, je suis triste pour toi. En fait, au final, ça finit par être plus sain, non, tu crois pas?
Ouais, mais après, il y a quand même des moments où moi, je me disais genre, j'ai dépensé tellement triste et pas saine que je veux pas aller en parler
suicidaire,
à quelqu'un.
Hein, on peut le dire. Oui, hein,
mais clairement, j'ai eu des grosses envies suicidaires pendant certains moments. J'ai pas envie d'aller. Pas étaler que je vais pas bien, mais aller pourrir la vie de quelqu'un d'autre. Genre, oui, tu vois, je me disais, je pourris. Enfin, je me pourris.
Ils le remarquent forcément.
Oui, c'est bien sûr qu'ils le remarquent, mais tout le monde. J'ai plein de gens qui me disaient, mais quand tu veux, tu m'appelles. Oui, si t'as envie de sauter par la fenêtre, tu m'appelles. Et j'étais là. Je le ferais pas, en fait, parce que j'aurais pas envie de te déranger. Ne serait-ce que la peur de déranger. Et ensuite, la peur de. Je sais pas, peut-être toi, t'étais en train de passer une trop bonne soirée. Et moi, je t'appelle et tu vas pas bien. J'ai des potes qui sont comme ça en ce moment. Et des fois, je suis là, je leur parle et je suis là, genre. J'avais passé une bonne journée et toi t'es là en train de me dire que tu vas vraiment pas bien et en même temps c'est pas du tout méchant quoi, mais c'est juste sur le moment je suis un peu là genre même moi aujourd'hui alors que je suis passée par là hein, j'ai des potes qui vont pas bien du tout aujourd'hui et je sais pas comment les aider non plus parce que chaque personne est différente et en vrai tu devrais juste leur demander qu'est-ce qu'ils veulent de toi et qu'est-ce qu'ils attendent.
C'est ça en fait,
parce que c'est ça la manière la plus saine de faire et d'être. Eux ils te diront ce qu'ils veulent de toi, ils te diront que moi, je sais que je disais, en fait, si j'ai besoin, je t'appellerai, tu vois. Même si je le fais pas forcément. J'ai des potes qui m'ont demandé, en fait, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ? Ma pote, je lui ai dit, tu prends mes devoirs, tu fais tout pour que quand je revienne, genre, je puisse à peu près suivre, etc. Si j'ai besoin d'un câlin, tu me fais un câlin. Si je te dis que j'ai besoin de parler, j'espère que tu veux bien m'écouter ou des trucs comme ça, tu vois. Mais c'est vraiment, tu demandes à la personne et si elle a besoin, elle te le dira. Et si elle te le dit pas, c'est que c'est son choix et qu'elle a envie d'être seule ou de rester dans sa merde. Parce que
mais des comment fois, tu fais toi pour partager ton expérience avec la personne ? Parce que là, on parle de la personne qui va mal, comment tu fais pour la gérer ? Enfin, du coup, c'est pas toi qui dois la gérer, mais genre, la relation avec la personne, c'est de son côté aussi. Si elle t'en parle ou elle décide de pas t'en parler, c'est sa vie. Mais toi, qu'est-ce que tu fais ? Parce que forcément, ça t'impacte. Tu vois, si c'est tes meilleurs potes genre, qui vont mal, genre...
Tout ce que tu peux faire, c'est être là pour eux et les soutenir dans tout ce qu'ils vont faire. Mais vraiment, c'est la définition.
Pour toi, tu fais quoi ?
Pour toi, tu fais quoi ? T'essayes de lâcher prise et de prendre un pas de recul sur tout ça. Et de te dire que, une fois que moi, on peut dire que je suis la preuve vivante de une fois que t'as touché le fond, tu remontes. C'est ma psy, c'est vraiment la phrase, ça fait 4 mois que je l'entends non-stop. Tu prends un mur, après, tu peux que remonter. Mais une fois que t'es descendu au plus bas, tu peux que remonter. Et si tu retombes encore après, c'est que. C'était comme ça et que d'une manière ou d'une autre, on avait besoin. Aujourd'hui, moi, j'en ressors avec des épaules qui ont triplé de volume. Ouais. Je peux encaisser énormément de choses maintenant que je ne pouvais pas encaisser avant. J'ai énormément grandi, je m'analyse beaucoup mieux. Je me comprends beaucoup mieux sur tous les points de toute ma vie. Et même si c'était un passage très, très compliqué, je ne le regrette pas du tout. Et franchement, si c'était à refaire, je pense que je le referais. Parce que j'en ressors tellement plus heureuse et... Ça me dit aussi, en fait, aujourd'hui, tu dois profiter de chaque moment où t'es bien. Parce que tu vas pas tout le temps bien. Et là, c'est un moment où je suis vraiment particulièrement bien en ce moment parce que j'ai plein de potes. Je vais arriver au lycée, donc j'ai aussi ce petit stress du lycée, de la nouveauté, tout ça.
C'est trop bien, le lycée, c'est beaucoup mieux que le collège.
Beaucoup, beaucoup mieux que le collège, t'inquiète. Et même moi, je passe dans le public, tu vois. Donc ça aussi, ça va énormément changer. Je vais retrouver plein de potes de primaire. En même temps, ça me fait peur. Et en même temps, je suis là genre, on va retrouver les anciens et tout. Mais non, ça t'apprend plein de choses, ce genre de période. Et même si c'est très compliqué du point de vue du pote, faut que tu dises que tu t'en sors toujours. Okay. Et si ça peut prendre longtemps ou pas longtemps, ça dépend des gens. Mais tu finis toujours par t'en sortir d'une manière ou d'une autre ou... par malheureusement t'y habituer.
C'est une illustration de ce qu'on était en train de raconter. Hein.
Ouais,
là, c'est vraiment en live.
Quoi. De quoi ?
Je suis scié.
Qu'on s'analyse beaucoup mieux.
Ouais, non, mais enfin, vous vous en rendez pas compte, mais c'est trop bien. Vraiment. Mais moi, j'ai l'impression de me revenir 30 ans en arrière et de vous regarder et de faire. Oh, moi, je crois qu'à 14 ans, j'étais en train de jouer à la crossole et j'étais bien content et j'étais là. Ouais. Et en même temps, ça m'empêchait pas. D'avoir des prises de tête comme vous pouvez les avoir, mais simplement c'était pas le sujet et en fait c'était impossible de les mettre sur la table. Et j'imagine dans ta famille régime vietnamien etc, waouh, ça devait être encore un autre délire. Et moi, dans ma famille judéo-chrétienne, où j'allais voir papy et mamie, tu vois, et je savais, je leur posais des questions et je voyais leurs yeux et je faisais « remballe ton truc, c'est pas bon. »
Finalement, on va rejouer à autre chose.
La console, là, c'est bien, franchement. Donc c'est cool, c'est cool. C'est cool que vous puissiez avoir cet espace de discussion-là et de pouvoir avoir aussi la possibilité de le faire, quoi. Tu vois,
ouais.
Écoute.
Merci les filles.
Merci.
C'était trop bien.
Ouais, c'était génial. Merci.
Si ça vous a plu, dites-le nous. Hein. On refera peut-être un épisode.
Dans
quelques temps. Allez, salut.
Merci, Fab.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez Histoire de Daron directement dans l'appli ou sur votre ordinateur. Merci à vous et rendez-vous tous les 1er et 3e lundi de chaque mois à partir de 6h du matin pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron. Un grand merci à vous pour votre écoute.